Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 4 des Éclaireurs, donc après une longue absence, bref, pas de temps on va dire. Alors ce soir avec moi j'ai deux invités des habitués maintenant, avec Randall Flagounet.
Bonjour, Pépé Rounet.
Pepperoni.
Pepperoni, pardon.
Et avec moi aussi, Titours Nounet.
Salut, El Gato Loco.
El Gato Loco.
Alias, le chaton foufou de Walzézette.
Tu teases déjà pour
le Warzazat.
Ouais, je balance. Je suis un ouf. Je balance dès le début.
Alors, ça va être une petite émission tranquille. Trois sujets d'une heure trente. Enfin, trois sujets, une heure trente en tout, si tout va bien. Oui, trois sujets. Un sujet d'une heure trente serait pour Titours.
Bah, ah non, non. Là, j'ai fait exprès de quasiment rien préparer, histoire de faire light.
Alors, personnellement, moi, je vais vous parler de l'histoire du spam. Ranran, tu vas nous parler de quoi?
Je vais vous parler de l'histoire, encore un dossier des vieux dossiers de l'informatique, je vais vous parler de Tetris.
Mais très bien.
L'histoire de Tetris.
Et toi, Titours?
Moi je vais essayer de vous faire une petite présentation du catch, principalement le catch américain.
Le catch, est-ce que c'est truqué?
Voilà, on le saura tout à l'heure. Après la pub, ne zappez pas.
Quelques petits remerciements rapidement. Petit remerciement à Walter qui a parlé du podcast et qui a parodié aussi le générique de Queen Novi. Vous l'avez entendu?
Ah oui, énorme.
C'est vraiment excellent. Je suis vraiment
avec des extraits de l'émission et tout, c'était très très drôle.
Et je remercie aussi Bouli et Maud du blog du Bidule, lebidule.org, pour leur invitation au Parabidule. Bon, ça fait un petit moment, mais on a parlé de paranormal, c'était assez sympa. Et aussi un petit coucou à l'Arnouf de Dépêche-Pod qui parle de temps en temps du podcast. J'ai rien à ajouter, sinon qu'on devrait être en live, mais que ça n'a pas marché. Voilà, mais on va passer sous silence ce mauvais épisode.
Ces problèmes techniques indépendants de notre volonté.
Ouais, ils nous entendaient pas parce
allô.
Que. Bah...
Non mais allô quoi. Allô. Allô.
Ah, cette émission va être très longue.
Ouais. Vous me recevez? Non, vous ne me recevez pas. Bon, bref, on va commencer avec le premier dossier et ça va être moi qui m'y colle.
Brothers,
comment il se met en premier direct quoi?
Ouais, comme ça, je fais mon boulot avant et puis comme ça je suis tranquille.
Et après, il pionce.
Et on va attaquer la rubrique spam.
Magnifique. Magnifique.
Ah oui, magnifique.
Je vais mettre ça comme alerte à chaque fois que j'en reçois sur mon PC.
Vous avez reconnu ou ça vous dit quelque chose ou pas?
Est-ce que ça serait pas des Monty Python?
Ah, bien
moi
joué.
Je crois bien que si.
Je vais en parler de toute façon des Monty Python, c'est obligé quand on parle du spam. Mais ouais. Je vais parler d'abord de l'origine du terme spam. Est-ce que vous savez ce que c'est à la base le spam?
Une espèce de conserve de viande, non?
Voilà, alors le terme de spam ça vient de 1937 et ça désigne pas les courriers indésirables qu'on peut recevoir, mais à la base, le spam, c'était une marque déposée par Hormel Food en 1937, c'était une entreprise agroalimentaire. Et le spam, donc l'origine du nom spam, c'est la contraction de spiced ham, qui signifie jambon épicé.
Oh.
Ou ça pourrait très bien aussi signifier shoulder of pork and ham, donc épaule de porc et jambon. Donc c'était de la bouffe à la base, quoi.
D'accord.
Je veux bien connaître la transition, pourquoi on en est arrivé là.
Ah bah, tu veux, j'ai tout,
on y arrive.
Tout la transition. Le spam, c'est une sorte de viande pré-cuite, conditionnée dans des boîtes de conserve, et ça constituait une des principales sources de nourriture des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale, vu que c'était nourrissant, non périssable, et donc ça ressemblait à une sorte de pâté rose assez indigeste.
C'est du cornet de beef, en fait?
Non, c'est pas vraiment... Non, c'est pas du cornet de beef.
C'est quoi la différence?
Cornet de beef, c'est de la viande séchée, si je me trompe pas, non?
Ah non, c'est un truc en pot qui... On dirait que c'est de la pâté pour chien.
Bah je pense que c'est pas loin
du... Il me semble que ça doit se ressembler. Sauf que c'était du porc et pas du bif, a priori.
Oui, voilà.
Ah bah voilà, c'est peut-être la seule différence en fait. Il
suffit de réfléchir et puis...
Voilà.
N'oubliez pas, vous l'aurez appris chez les éclaireurs.
Et oui, la question qu'on peut se poser, c'est comment on en est venu à associer le concept d'indésirable, donc du spam indésirable, au jambon en boîte. Ça a l'air con comme ça, mais... Mm-hmm. Pour ça, il faut attendre 1970... et le fameux sketch des Monty Python, sobrement intitulé Spam. Et donc dans le sketch, donc ils sont bien foulés quand même pour le nom du sketch. Donc dans le sketch, le spam désigne toujours le petit jambon en boîte qui est répété à tout bout de champ pendant le sketch, à tel point que ça parasite toutes les conversations. Donc Le sketch, ça se passe dans une auberge. Tout au long du sketch, l'aubergiste décrit les plats qu'il a sur menu comme ceci.
Morning.
Morning.
What you got then?
Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam, spam, bacon, sausage and spam, spam, egg, spam, spam, bacon and spam, 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 egg and spam, 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 baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with a mayonnaise sauce, garnished with truffle pate, brandy and a pie and a pot and spam. Have you got anything without spam in it? Well, spam, egg, sausage and spam, it's not got much spam in it.
Bon voilà, vous avez compris tout de suite le
c'était
truc,
quoi, quoi. Il peut répéter le troisième.
Ah non, je te repasserai ça à la fin si tu veux.
Ah merci.
Donc vous avez compris qu'il répète ça à tout bout de champ, donc c'est super chiant à la fin. Mais aussi dans le sketch, il y a une troupe de vikings attablée à côté, qui se mettent ils font leur truc de viking quoi. Je sais pas,
ils boivent de la bière.
Non, ils boivent, je sais pas, de la bière dans des crânes ou des trucs comme ça.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et ils se mettent à chanter spam de temps en temps, comme ceci.
I don't like spam!
Spam, 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 spam.
Alors vous voyez qu'il y a plein de choses qui s'accumulent dans le sketch et à la fin on comprend rien du tout de ce qui se passe quoi.
Tellement il y a le spam.
Ouais voilà, c'est... bah oui mais ouais. C'est... On est vraiment dans la genèse du spam là.
Mais une chorale de vikings c'est beau.
Ah oui moi j'aime bien, ils sont classe les vikings, ils ont des cornes, tout ça.
Bientôt à l'Eurovision.
Petit chanteur au casque de fer.
Avec l'ordi.
Ah j'ai failli le faire, les petits vikings au crâne de fer.
Ouais. En fait le sketch c'était une parodie d'une publicité qu'on pouvait entendre à la radio à cette époque. Donc une publicité où la marque Spam était répétée maintes et maintes fois, comme on fait avec les pubs de maintenant, quoi, pour marteler le nom de la marque pour qu'on l'ait bien en tête. Et donc,
non mais dit... allô quoi.
Ouais, non mais allô, me tente pas, je la remets.
Allô. Non mais allô quoi.
Et donc, une des publicités pour le Spam, j'en ai une, vous allez voir que... Bon,
vous allez voir le pénis. Truc.
Ah non, non, non. You don't say ham, you say spam.
La 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 la. You don't say ham, you say spam. Spam is real spice ham. You don't say ham, you say spam. When you want to serve delicious meals for your family, you don't say ham, you say spam.
Mon dieu. Bon, d'ailleurs, on entend truc, bien spiced ham dedans.
Ouais, voilà, en gros, il y a 4-5 fois le mot répété quoi.
Et donc c'était dans les années 70.
Non, cette pub là date de 90 mais
Lyon. 90.
Ouais.
Ah ouais, quand même.
Ah ouais. Ouais. C'est assez kitsch pour l'époque.
Non, même déjà à l'époque.
Bon, quoi, donc, 90, il y a eu l'Eurodance aussi, donc. Voilà.
Très mauvais souvenir.
Ça peut se pardonner.
Et donc.
Enfin, si on veut. Je t'en prie.
Comment le spam est devenu le mot qui désigne les courriers indésirables? Parce que ça a pas de rapport. Enfin,
un léger, c'est juste un peu.
Il y a un léger rapport, mais on comprend pas
en fait,
pourquoi.
Le premier spam, c'était de la pub pour du jambon persillé.
Ah non, le premier spam il remonte à loin, mais je vais en parler après.
Ah.
Ben en fait, dans les débuts d'Internet, beaucoup des premiers utilisateurs d'Internet, bon, je sais pas vous apprendre parce que vous êtes plus vieux que moi, vous savez plus de choses que moi sur Internet, mais il y avait des newsgroups.
Eh oui.
Et il y avait un newsgroup dédié au Monty Python.
C'est fait.
Et donc le sketch à l'époque du spam était tellement populaire qu'un jour, un message est apparu sur le newsgroup et le mot spam était répété une bonne centaine de fois, quoi.
D'accord.
Et donc, ouais, c'est comme ça que ça commence. Et donc, petit à petit, le message s'est diffusé sur les autres newsgroups pour embêter les gens. Mais là, c'était vraiment pour faire chier les gens, quoi. Et donc, on a qualifié cet acte de spamming.
Eh oui.
Eh oui.
Oh.
Et donc, le spam moderne était né. Si bien que, bon, bah maintenant, c'est plus choquant d'entendre des verbes spammer, enfin, ou désigner des spammeurs. Donc, le mot vient vraiment rentrer dans la langue, quoi. Mais, de quand date le premier spam?
En courrier électronique?
Mais oui,
en courrier électronique, ouais.
Moi je.
Des années 50
non, moi je dirais 50. Allez, 60. Allez.
Ah non, c'est trop vieux quand même.
Non, c'est jamais. L'invention du mail devrait dater des années. Non, remarque, l'invention du mail c'est plutôt 72 ou un truc comme ça, donc.
Alors, le premier spam apparaît le 3 mai 78.
Là. Ah, c'est précis.
Ah ouais, bah je suis précis. Attends, on est dans les éclaireurs quand même.
Comment on sait que c'est le premier?
Parce que c'est Internet qui le dit.
Ah.
Non, en fait, ce jour-là, c'est un certain
Bernard de la Villardière.
Non, non. Un certain Gary Turk, donc, qui travaille au service marketing d'une boîte d'informatique appelée DEC, DEC. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas personnellement.
Non.
Et donc il décide d'envoyer un courrier électronique à plusieurs centaines d'utilisateurs du réseau ARPANET, donc c'est en gros l'ancêtre d'Internet, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Bah, c'était un peu le seul de l'époque.
Oui. Bah, c'était plus militaire, non, ARPANET, il me semble, à la base.
Bah, oui, c'était l'armée américaine quoi, qui avait fait ça à la base.
Et donc, il voulait envoyer un courrier électronique pour inviter à la présentation en Californie d'une nouvelle gamme de machines, donc inviter des possibles acheteurs. Quoi. Et donc, il a entré toutes les adresses à la main, donc entre 300 et 600 personnes, donc ça va dépendre des sources, et il va dépasser le nombre de destinataires auxquels il a le droit, et donc ça a un petit peu surchargé le réseau. Et l'administration américaine en charge du réseau, la DCA à l'époque, a sèchement rappelé la DEC à l'ordre. Déjà à l'époque, il considérait que c'était une pratique jugée incompatible avec le réseau. Donc déjà, on était dans...
T'as le mec, il se fait chier à taper toutes les adresses à la main, on lui dit qu'il faut pas faire ça.
Oui, surtout que...
Ouais, ouais.
C'est triste.
Bah, ça commence comme ça. Concrètement, le spam, c'est souvent de la publicité, souvent pour le Viagra.
Et autres substances censées...
In their sure penis.
Ouais. Voilà. Des sites porno, des jeux en ligne, des logiciels. Et ça peut être aussi des escroqueries également. Par exemple, est-ce que vous connaissez la fraude 419?
419, non.
Non, je connais 619, mais j'en parlerai tout à l'heure.
Alors, si je vous dis que l'autre nom de la fraude 419, c'est le scam nigérian.
Oui, bah oui. Alors oui, d'accord.
Alors s'il te plaît, envoie-moi 10 euros que je t'enfile 500 000.
Ah, ouais, je puisse ouvrir un compte. Je peux pas ouvrir un compte, donc tu l'ouvres pour moi avec 10 euros dessus. Et après, j'y mettrai des millions.
Pour expliquer à ceux qui savent pas, scam nigérian, c'est quand on reçoit une lettre d'un fils d'un richissime homme d'affaires africain mort, de préférence. Et il va te promettre 50% de l'héritage si tu leur envoies de l'argent pour rapatrier l'argent en France. Ou
autre. En fait, l'idée, c'est de lui tu l'ouvres un compte avec 10 euros dessus, par exemple, pour que lui puisse y mettre l'argent, c'est ça qu'il te dit.
Ouais, c'est ça. Enfin, il faut quand même leur envoyer des milliers d'euros pour les frais, bien sûr.
Oui, quand je dis 10 euros, oui, après c'est...
D'ailleurs,
ouais, c'est quelques milliers.
Je sais pas si vous avez vu, mais Mosiner a fait un petit sketch là-dessus. C'est juste un petit extrait qui m'a bien fait marrer.
Bon, je précise que tous les mails qui vont suivre ont réellement existé. Hein. Donc le mien est fils d'un grand producteur de cacao, hein, empoisonné par ses associés, et d'une mère morte 4 mois plus tard d'une hypertension artérielle. Bon, c'est pas une maladie qui te saute dessus sans prévenir d'habitude, hein, mais là oui, foudroyante. Oui, donc on est le 21 août et Michel Duncan a décidé de me transférer 7 millions de dollars. Oh. Oui, bon, bah un aficionado, c'est un fan, et alors bah prenez-en de la graine au lieu de faire des oh, mais c'est pas vrai ça.
Donc voilà, c'est ça le scam.
C'est ça,
ouais.
Je vous conseille quand même de regarder le sketch, il est vraiment très bon. Sinon, dans les spams, on a des chaînes de mails. Qui n'a pas eu de chaîne de mails?
Ah, les chain letters. Oh.
Ouais. Il y a EDF en ce moment.
Les quoi, il y a
EDF?
Ah oui, oui, ouais.
On
oui,
va vous couper votre électricité si vous ne payez pas.
Ouais, et c'est sûrement.
Bah, c'est pas des chaînes de mails.
Ouais, et c'est des courriers qui viennent de Thaïlande, apparemment. Donc,
Ouais, mais sauf que EDF ne fait rien contre ça. Ils en ont rien à branler.
Ah ouais?
Bon, tu
n'as aucun moyen de les contacter. Et quand tu les appelles pour dire bonjour, je voudrais vous parler de ça. Non, désolé, on s'occupe pas de ça. Au revoir.
T'en as eu, toi?
Oui.
Ah, t'en as eu? Eh ben.
Ah, bah oui, je l'ai reçu.
Si EDF nous écoute.
Ah, mais j'ai cherché pour les contacter et c'est laisse tomber, ils répondent que dalle.
Ah ouais.
Quand tu cherches EDF, de toute façon sur Twitter, tu tombes sur Équipe de France.
Oui, bah ça m'étonne pas.
Donc avec ça, t'es bien avancé.
Sinon, on a aussi les mails phishing. Bon, ça c'est surtout ces dernières années qu'on en parle. Alors, le principal vecteur de diffusion, c'est bien évidemment le mail. Donc par exemple, en 2009, à votre avis, sur 100%, donc le pourcentage de courriers reçus étaient des spams, à votre avis, c'était combien?
Je dirais beaucoup.
Je dirais 60.
Un tiers.
Combien?
100%.
60, dis-toi,
si tu allez, plutôt dans les 33.
Ah bah non, c'était 95%.
Oh putain.
Ouais, je crois qu'il y avait eu une grosse baisse de spam récemment.
Ouais, j'en parle juste d'accord. Après.
Oui, quand mais, c'était un russe qui s'était fait
attends.
Arrêter.
Ouais, c'était le roi du spam, mais j'en parlais. Mais on...
Ah ok.
Ah ouais, tu vas me pourrir ma...
Ne dévoile pas la fin de Reculo.
Y a plein de petites techniques que les spammers utilisent pour contourner les filtres anti-spam, parce que maintenant les filtres anti-spam sont assez élaborés. Bah, personnellement, je reçois plus de spam, hein, je sais pas vous, mais.
Bah, allez sur Gmail, hein, il vous aura pas de problème.
Moi j'utilise pas Gmail, mais j'en reçois, on va dire, un tous les deux jours.
Et, bah, j'en ai pas un seul qui passe sur Gmail.
La plupart du temps, moi les spams que je reçois, c'est pas vraiment des spams, enfin c'est des faux positifs, c'est des trucs de Deezer, tout ça.
Ouais.
Ou et sinon, en fait, je reçois des mails à quelqu'un qui s'appelle comme moi.
Ah.
Donc, je reçois ses notifications pour ses places de foot. La dernière fois, je lui ai annulé son ticket de train, son billet de train. Ça faisait deux fois que je le recevais. Je me suis dit, tiens, je peux l'annuler. Ouais, hop là, annulation.
Donc, s'il y a un titours qui nous écoute,
bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à rentrer son adresse correcte.
Et donc, les spammeurs utilisent des petites techniques comme ça, par exemple, pour Viagra, ils remplacent le A par un arrobas, ou...
Ou ils mettent un espace dans le mot, ouais.
Un espace entre chaque lettre,
ou deux I.
Contourner. Ouais, voilà. Comme les kikou. Et après, voilà. En dérivant, on peut aussi inclure les messages sur les forums, les pop-up, les spams par SMS, ça se fait beaucoup maintenant.
Ouais, enfin, les pop-up sur les forums, ce serait plus, c'est plus de la pub que du spam, mais les spams par SMS,
enfin,
par
les messages sur les forums et les pop-up...
Et autres. Aussi l'espèce de phishing par SMS aussi, ou un numéro d'appel sans laisser message.
Ça se fait, beaucoup.
Machin, t'as laissé un message, rappelle le...
Voilà.
3,85€ la seconde.
Oui, non, c'est plus. Alors, il y a... Bien évidemment, des effets nocifs dans le spam. Donc, principal inconvénient du spam, c'est que c'est l'espace qu'il occupe sur le réseau et ça encombre inutilement une partie de la bande passante. Parce que le spam induit.
Une partie, ça a l'air d'être beaucoup quand même.
Ah oui, non, mais tu vas voir. Le spam induit des coûts supplémentaires pour les fournisseurs d'accès à Internet parce que bon, bah, ils doivent mettre en place une plus grande largeur de bande passante, ils doivent acheter des serveurs supplémentaires pour gérer le spam. Aussi engager
un logiciel d'anti-spam aussi.
Ouais. Oui, oui, ils doivent aussi engager du personnel pour les réclamations diverses. Mm-hmm. D'ailleurs, pour ce qui est le problème de bande passante, en 2010, il y a le roi du spam qui a été arrêté, et je pense que tu parlais de lui, c'est Igor Gusev.
Voilà.
Donc c'est un russe de 31 ans, et au moment de son arrestation, l'envoi de spam a diminué de 20%, soit milliards de messages. Hein,
ouais, c'est ce que j'avais entendu, voilà. Ouais, c'était impressionnant. Quoi.
Et donc après des spammeurs avec le titre de roi du spam, on en trouve plusieurs, ça. Titre honorifique qui se passe de spammeur en spammeur, on va dire. Et donc il y a un très célèbre spammeur qui est Stanford Wallace, je sais pas si vous le connaissez.
Ça me dit rien.
Non.
Son petit nom c'est Spamford Wallace.
Forcément.
Ça donne tout de suite le ton. Et donc il a commencé en montant une boîte au milieu des années 90. Son fonds de commerce c'était il voulait aider les gens à se familiariser avec Internet et plus précisément les emails. Mais lui, aider les gens, il s'en foutait, ça l'intéressait pas. Il a vu que des gens étaient prêts à le payer pour que lui envoie des pubs à n'importe qui par email. Donc ils sont engouffrés dans la brèche. A savoir que c'en est pas son premier coup d'essai, parce qu'il avait déjà été condamné pour presque la même chose au début des années 90. Il faisait de la pub sauvage en envoyant des fax à tout le monde. Je sais pas si tu... Ouais.
Le truc sympa.
Oui. Les spams par fax, ça a toujours existé aussi.
Ouais.
Enfin, surtout depuis que les tarifs téléphoniques sont diminués.
J'ai pas trop connu, moi, les fax. Bon.
Oh, ça va.
Ah ouais,
moi non plus.
Ouais, ouais.
Il a finalement été arrêté au sommet de sa gloire, après un combat acharné entre lui et des hackers qui voulaient abattre son site, et un trop grand nombre de procès d'un autre côté. Mais il faut savoir qu'il a aussi profité de l'essor des adwares pour vendre des faux logiciels. Il appelait ça des logiciels antidotes.
Oui.
C'est des adwares qui étaient censés t'enlever des adwares de ton PC.
Et qui, en fait, te rajoutaient de la pub.
Voilà, comme les toolbars.
Voilà.
Je pense que je ferai un dossier sur les toolbars, un de ces quatre, parce que...
Il y a de quoi faire.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est.
Ah, il y a de quoi faire.
Le spam se traduit aussi par une hausse, il a un impact environnemental et ça se traduit par une hausse significative de la consommation électrique des réseaux et des serveurs informatiques. Ah oui. Par exemple, en 2008, 62 milliards de messages indésirables ont consommé, alors que je me trompe pas, une quantité d'énergie équivalente aux émissions de gaz à effet de serre de plus de 3 millions de voitures en un an.
Vache.
Ils ont tué 300 ours.
Ah, peut-être.
Voilà.
C'est
le spam tue les ours.
Et un peu plus de la moitié de cette énergie, donc c'était 52%, est consommée à l'ouverture et lors de la suppression du spam par l'utilisateur. Vous voyez ? Le fait d'ouvrir un spam ou de le supprimer, ça consomme près de la moitié de l'énergie. Quoi.
Forcément,
quand même.
Comment on peut éviter le spam alors, selon vous ?
Eh bien, en étant végétarien.
Sur les serveurs de messagerie, les bloquer pour pas que ça les diffuse.
Alors déjà,
pour
le truc.
Détruire à la source.
Le truc tout simple, ne pas relayer les messages. Par exemple, vous avez des chaînes de mails ou des trucs comme ça.
Oui, il y en a qui les relaient encore.
Ouais, mais bon, j'ai trouvé ça drôle. Donc là, on va dire.
Non, mais c'est vrai qu'on peut tuer des... On peut faire exploser un micro-ondes en mettant que de l'eau dedans.
Non, mais allô, quoi. Je veux pas me prendre une malédiction.
Allô, quoi. Non, mais allô. Attends, je vais le mettre. Hein. Faut pas dire allô, sinon je le mets.
Non, mais ah ouais, c'est chaque fois qu'on dit allô.
Allô.
Tu reçois une chaîne et tu la renvoies pas, quoi.
Tiens, j'ai bien envie de jouer allô.
Non, j'ai pas ouf. Aussi.
Allô. Non mais allô, quoi.
Sinon, éviter aussi de publier son adresse électronique, bah c'est du bon sens, mais un petit peu partout sur internet, vaut mieux le faire en message privé. Enfin, bref. Aussi, il conseille de créer des adresses jetables qui servent uniquement pour certains sites.
Tout à fait, moi j'ai une adresse. J'ai pas une adresse jetable, mais j'ai une adresse poubelle qui ne sert qu'à ça.
Ouais, moi aussi. Quelques anecdotes pour terminer, mine de rien, ça va très vite. Si je vous dis 1864, ça va être des petites questions.
Anno 1864, c'est le jeu?
Non, t'as dit Anno là, c'est... Anno?
Oui, Anno.
Anno quoi.
Non, j'avais dit Anno, c'est pas grave.
Anno.
Alors, c'est du chocolat.
Oui. Alors, 1864, c'est l'année où il y a une nouvelle forme de spam qui a apparu, on va dire la première forme de spam. Et à cette époque, la Western Union, c'était la fameuse société de communication, avait autorisé l'envoi de messages à plusieurs endroits simultanément par les télégraphes. Ah. Et des petits malins s'en sont servis pour envoyer des pubs sur des offres d'investissement, déjà à l'époque.
Ah, excellent.
Et donc, ça a causé énormément de soucis de communication à l'époque.
J'imagine.
Deuxième question. Oh. De quel pays vient le plus de spam?
La Russie.
La Russie. Et non. L'Inde.
Oh, bien joué.
L'Inde. C'était logique.
Yes. Ouais. Bah, c'est obligé.
Alors, en 2011, selon une étude de Cisco Systèmes, ce serait de l'Inde que vient le plus de spam, avec 15% du spam mondial.
D'ailleurs.
Mine de rien, c'est énorme. La Russie vient en second avec 9%.
Ah, ça a changé.
Ah, c'est bien réparti quand même après.
Ouais. Ah oui, après ça se répartit. Oui, en troisième, je crois qu'il y a la Turquie.
Je sais pas, qu'ils ont des serveurs un peu partout histoire de limiter les délais, quoi.
Bah, d'un autre côté, ça passe souvent par des PC zombifiés, donc c'est pas vraiment des serveurs qui servent qu'à ça.
Ouais, enfin, ou alors, ouais, ils ont des. Ça doit être bien réparti un peu partout, quoi.
Troisième question. Si je vous dis moins 70%, et non, ça ne correspond pas au solde.
Moins 70%.
Bah, je pense que vous n'allez pas trouver ça.
Les soldes surcouf.
Non, ni les soldes style.
La réelle augmentation de your penis avec les pilules.
Ah non, ça aurait pu, mais. Et en fait, c'est en fait la fermeture du fournisseur d'hébergement web McColo, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
En novembre 2008, qui avait permis d'éradiquer 70% du volume de spam.
Ah voilà,
mondial.
C'est à ça que je pensais, moi.
Des dizaines de milliards de messages. Pour un seul hébergement.
C'est pas mal.
Hébergeur. Dernière petite question. 1 sur 12 500 000 messages.
C'est un vrai message.
Ouais. Pas
un
spam. Non, ça fait beaucoup quand même. Alors, prends Marc.
Non. C'est en fait, selon une étude menée par l'équipe de l'université de Californie à Berkeley, ouais, c'est le taux de réponse au spam. Donc il y a environ une réponse d'un gogo tous les 12 500 000 messages.
Je pensais que ça serait plus.
Sachant qu'ils nous envoient plusieurs milliards.
Et donc pour ce faire, les chercheurs en informatique avaient infiltré le réseau Storm, qui c'est un réseau qui pirate des PC pour envoyer des spams. Et pour mesurer ça, ils avaient mis en place deux choses. D'un côté, un faux site internet de vente pharmaceutique, donc avec du Viagra. Et de l'autre côté, une traditionnelle pub spam sur le Viagra. Et donc l'étude relate qu'au bout de 26 jours d'envoi, ils n'ont obtenu que 28 ventes pour près de 350 millions
d'accord,
de messages.
D'accord, mais c'est uniquement sur du spam au sujet du Viagra. Parce que je pense qu'il y a des sujets qui doivent marcher beaucoup mieux.
Oui, je pense bien.
Donc
aussi.
Les gars, ils ont quand même balancé 350 millions de messages pour faire.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ah bravo les mecs.
Ouais. Et après, c'est les premiers à se plaindre de la surcharge des serveurs.
Enfin, ouais. Non, mais c'est de la recherche. Hein.
Voilà, c'est ça.
Mais ça n'empêche pas, comment dire, le réseau Storm, celui qui envoie les spams, d'engranger jusqu'à 3,5 millions de dollars par an.
Quand même. Enfin, moi, je trouve que leur étude n'est pas très complète. Je trouve que leur étude tombe à l'eau.
Oh. Allô? Non, mais allô?
Ah.
Allô?
J'ai failli attendre.
Allô?
J'ai envie d'en avoir marre.
C'était l'idée.
Allô, quoi. Bah voilà, finalement, ça a été vite.
Effectivement.
Une petite vingtaine de minutes, mais bon, après, j'aurais pu vraiment détailler beaucoup plus de trucs, mais après, on rentre dans la technique, dans mes techniques, c'est compliqué, et ça aurait été chiant, et j'ai pas les capacités.
Non, je savais pas pour. Je savais que ça venait des Monty Python, mais je savais pas pour l'histoire du forum.
Ouais, mais c'est toute une histoire comme ça. Les Monty Python, c'est vraiment une étape, en fait.
Comme quoi, les gens qui répondent au spam, c'est un peu des jambons.
Ouais.
Tatounks.
Je me suis retenu depuis le début de l'affaire. Ah, je me sens mieux.
Mais je suis sûr que Grand-Rang n'a même pas percuté.
Non, bah moi, je fais pas des trucs aussi pour... Ouais, autant pour moi.
Non, tu me fais pire, c'est vrai, excuse-moi.
On va passer au deuxième sujet.
C'est moi-même.
Quel est-il, le deuxième sujet?
L'histoire de Tetris. Magnifique.
Et donc, qu'est-ce que c'est que ce jingle, tu peux nous dire?
Ça ressemble bien à une musique du jeu Tetris version Game Boy, si je me souviens bien.
Exact.
Et alors là,
c'est laquelle?
Ça doit être le type B, le Game B, c'est ça?
Ouais, bien, bien.
Et par contre, tu vois,
pas
là,
du
tu, passes, tu commences par la fin. Parce qu'en fait, c'est moi, je vais vous raconter comment on en est arrivé à la version Game Boy. Alors, moi, je vais vous raconter comment la générique...
Ah non, c'est pas le mot.
You fail.
Fail. Moi, je vais vous raconter la genèse de Tetris. Alors, déjà, Tetris, on va parler de son créateur qui s'appelle Alexei Leonidovitch Pajitnov. J'ai réussi à le dire. Je me suis entraîné devant un miroir.
Ah, pas mal.
Un truc de fou. Qui est né en 1956 en URSS, diplômé en 79 du Centre informatique de l'Académie des sciences de l'URSS. Il devient chercheur d'ailleurs à l'Académie des sciences. Donc vous connaissez le pentomino, le jouet en bois, le pentomino.
C'est le triomino.
Pentomino.
Le triomino.
Le pentomino, c'est des petites, comment dirais-je, petites plaques de bois qui formées de 5 carrés qui sont les uns à côté des autres, donc qu'on assemble pour faire des figures qui sont imposées.
Il y avait ça dans Fort Boyard.
Oui, il y a un truc qui ressemble à ça.
Pour voilà. Choper la clé.
Et en fait, ça représente, du coup, ça fait 5 carrés connexes, ça représente 12 pièces différentes si on compte pas les miroirs, puisqu'on pouvait retourner les morceaux de bois. Sinon, ça en fait 18 différents, puisqu'il y en a qui sont symétriques. Est-ce que vous me suivez jusque-là?
De loin.
Ça va.
Et en fait, c'est en voyant ce jeu que Alexei a une petite idée. Alors, tout commence en 1985. Et c'est en voyant ce jeu de pentomino que Alexei a l'idée de faire un jeu de pièces qui tombent et qui s'emboîtent. Bon, rapidement,
le pouce-pièce?
De pouce-pièce? Non, pas tout à fait. C'est en voyant que les pentomino, c'est un peu compliqué, qu'il y en a quand même beaucoup, qu'il décide d'enlever un des petits carrés. Et donc, il crée les tétramino, qui sont les 7 pièces différentes de Tetris que vous connaissez.
Oh!
Il y en a 7?
Il y en a 7.
Ah oui, il y en a 7.
En fait, c'est toutes les pièces possibles et leur miroir de 4 carrés qui se touchent. Le principe, donc, je vous le refais pas, hein, c'est des pièces qui tombent du haut d'un écran dans un réservoir de 12 pièces de 12 carrés de large. Il faut faire une ligne complète de ces pièces pour qu'elles disparaissent. Le premier Tetris, il le fera sur un ordinateur Electronica, c'est une marque russe, hein, puisqu'on est en Russie. Et le succès dans l'université sera immédiat, c'est-à-dire que tout le monde joue là-bas.
Ah bah ça, dès qu'on peut jouer, hein, forcément il y a du monde.
Ouais, même les Russes savent jouer.
Pour travailler, hein, y a personne.
Enfin, voilà. Je vous rappelle quand même qu'on est en 1985 et que la Russie est un pays très fermé. Ça va avoir son importance. Et
bah, il y a des gens dans les goulags.
Et on est non seulement en Russie, mais en URSS surtout. Et voilà.
Et oui.
Le jeu est rapidement adapté sur IBM PC, puisqu'il y a quand même pas mal de PC en Russie déjà. Par un certain, ça c'est une anecdote marrante, c'est un certain Vadim Gerasimov, qui est un étudiant de 16 ans à l'époque, qui était là-bas. Et ce type, beaucoup plus tard, dans les années 90, émigrera aux États-Unis pour étudier au MIT, et maintenant il bosse chez Google. Comme quoi, comme par hasard.
Il est passé.
Ce qui est marrant, c'est que bon, à l'époque, donc l'adaptation est faite à l'université, donc des copies commencent à circuler de disquette en disquette un peu partout dans Moscou. Alexei Pajitnov, d'ailleurs, atteint une petite célébrité localement, dans le petit monde des informatisés, on va dire. Et maintenant, allons en 1986. En 1986, la version de PC de Tetris, celle qui a été faite sur IBM PC, arrive à Budapest, en Hongrie. Et elle est adaptée rapidement par des programmeurs du coin, pour Apple II et pour Commodore 64. Et c'est pareil, elle commence à circuler un peu sous le... Comme, pas vraiment sous le manteau, mais...
La chapka.
Sous la chapka, j'allais dire.
Personne ne l'a encore, comment dirais-je, licencié. Il est tout à fait légal de la copier. Donc c'est là qu'entre en scène un certain Robert Stein. Robert Stein, c'est un Anglais président de Andromeda Software. Andromeda Software, c'est une petite société qui fait des logiciels. Et il repère Tetris lors d'un voyage là-bas. Donc il décide d'acquérir les droits de Tetris. Alors il cherche à trouver ça. Il s'allie avec un Américain qui s'appelle Spectrum Holobyte, qui est relativement connu. C'est la société Mirrorsoft, en fait. C'est une branche de la société Mirrorsoft. Donc avec Spectrum Holobyte, il essaye d'acquérir Tetris. Il y a vraiment, du coup, il y a deux auteurs. Il y a la version hongroise, qui a copié la version de Pazitnov. Alors Stein, lui, il essaye d'avoir les licences. Et en novembre, il va voir les créateurs russes, les créateurs hongrois, pardon. Et là, sans problème, il arrive à acquérir la licence. Ils sont bien contents de pouvoir le revendre. Et sur un malentendu, laissant entendre que l'Institut des sciences de Moscou est d'accord pour vendre les droits, Stein va à Moscou. Hop. Mais Pajitnov est même pas au courant. Il comprend pas de ce qui se passe. Donc aucun accord est signé. Stein revient les mains vides. Mais bon, il décide, ok, j'ai des licences de chez Apple II et C64, c'est pas grave, ça me suffira. Donc il décide quand même d'aller vendre toutes ses versions, en attribuant d'ailleurs sur les boîtes et tout, la paternité aux programmeurs hongrois qui ont créé ces versions. Au revoir Alexei, Pajitnov, tu ne seras pas sur la boîte de Tetris. Non,
c'est
moche.
Pas gentil.
C'est pas cool.
Et tout ça, vu qu'on est, je vous rappelle, en URSS, personne en Russie n'est au courant de ce qui se passe... dans l'Occident capitaliste.
Ah, donc les jeux vidéo, tout ça...
on ne sait pas ce qui se passe ailleurs des frontières, en dehors des frontières, surtout. Mmh. On arrive en 1987. Ouais. Bon, là, il ne se passe pas grand-chose, c'est juste Stein qui dépose les droits pour tout ordinateur. Officiellement, Tetris devient sa propriété. Passons tout de suite en 1988. Les ventes sont énormes en janvier, les critiques sont enthousiastes, le jeu est redécoré aux couleurs de la Russie malgré tout.
Je te mets le thème.
Magnifique. Je sais pas si où sous.
Je fais la chorégraphie.
Moi je me souviens de la première version PC, en effet, on voyait le Kremlin, des paysages russes, c'était tout de suite repeint à la couleur de la Russie, chaque niveau. Les musiques étaient très proches de celle-ci. Mais par contre, aucune référence à Alexei Pajitnov, comme je vous ai dit, et pas un seul rouble qui remonte en Russie. Mais un jour, en janvier, Pajitnov est interviewé par une chaîne américaine, et il découvre le poteau rose et révèle tout, il explique que Stein a un peu louvoyé juridiquement, et il lui a piqué Tetris. Du coup, Alexei commence la contre-attaque, et s'allie à une société russe qui s'appelle Elorg. E-L-O-R-G.
Le KGB.
Non, ce n'est pas les KGB. Donc Elorg part en guerre contre Stein. Il exige le dédommagement pour vol de propriété et que Stein achète finalement réellement les droits d'exploitation s'il veut continuer à distribuer Tetris. Voilà, les combats commencent.
C'est dingue.
C'est la guerre. On arrive en 1988. Des mois de concertation finissent par aboutir à un accord en mai. La version ordinateur...
Mais
la version micro-ordinateur, Stein la garde, ok, on va considérer que les droits qu'il a acquéris, c'est pour toutes les versions ordinateur. Par contre, toute adaptation arcade, aucune licence ne pourrait être vendue, et Elorg en garde l'exploitation. Arcade et console, ça sera pas pour lui, c'est seulement micro-ordinateur. En juillet, Stein commence à discuter avec Elorg, pour essayer de créer une version d'arcade. Mais c'est Spectrum et Lobite, vous savez... la société directement, qui va décider finalement de vendre la licence. Stein laisse tomber l'idée, si vous voulez. Et donc Spectrum Lobite va vendre au Japon une licence à une certaine boîte qui s'appelle Bulletproof. Ça va être très important, non? C'est marrant pour une société japonaise, mais bon.
Mais en gros, il y a combien de licences qui...
Alors pour l'instant, on en est où? Il y a une licence de Stein via Spectrum Lobite, et c'est tout, pour micro-ordinateur. Et Elrog qui garde l'exploitation de tout ce qui est arcade, mais qui n'a encore rien créé.
D'accord, eh ben.
Et donc Stein, vu qu'il n'a pas réussi à trouver d'accord, décide via Spectrum Lobite, la société avec qui il s'est allié, de vendre une licence d'exploitation à Bulletproof pour faire une version arcade et une version NES, puisque la première NES est sortie. Et Spectrum Lobite via MirrorSoft. Là, c'est là que ça se complique, mais enfin, disons que c'est la même société qui a deux noms, qui a deux branches. L'avant à Atari, pour la version, américaine, qui décide pour qu'ils puissent en faire une version arcade et une version Famicom. Alors là, vous allez me dire, c'est bizarre, il y a Famicom, je vous rappelle que c'est le nom américain de la NES. C'est-à-dire que les Japonais sont en train de développer une version NES, et les Américains une version NES, mais sur Famicom, et non pas sur NES. Et alors là, évidemment...
Donc il y a deux Tetris qui vont sortir sur la même console.
Ouais, mais une pour la version japonaise. C'est vrai, c'était exactement les mêmes. Enfin, elles étaient zonées peut-être, mais les consoles étaient physiquement exactement les mêmes. Je me rappelle pas si elles étaient zonées.
Ouais, mais après, peut-être que ça tournait pas d'un côté ou de l'autre après.
Voilà, je me rappelle plus si c'était zoné,
mais ça tournait pas.
Mais en tout cas, voilà ce qui est prévu de faire. Bon, alors évidemment, là, c'est le Mega Process, coup-ci. Y a même Atari et Bulletproof qui se font avoir. Alors que Stein, finalement, s'est plus ou moins retiré de l'histoire, puisque, plus ou moins volontairement, il a laissé les sociétés auxquelles il s'est allié se battre contre Elorg. Voilà. On en est là, ça commence à être le procès. En novembre, Nintendo donc prépare la Game Boy. Et le président de Nintendo America, qui a vu Tetris et qui a les yeux qui brillent, décide que Tetris sera sur la Game Boy, et le jour de la sortie. Bon, alors là, il contacte Stein. Stein qui dit non, là, je veux pas revendre de licence, c'est trop le souk. Je me lance pas là-dedans. Alors comme Stein refuse de vendre la licence à Nintendo America, puisque c'est Nintendo America qui commence à gérer tout ça, Nintendo America envoie un délégué qui s'appelle Rogers voir Alexei et la société Elorg pour défaire cette espèce de sac de nœuds. Et là, on arrive en 89. Donc Stein et un autre type de chez Spectrum Lobite vont avec le représentant de Nintendo, Rogers, voir Alexei Pajitnov. Alors, ce petit monde arrive là-bas. Alors Rogers, le délégué de Nintendo, pour montrer que sa boîte, elle en a et qu'ils vont faire un truc super, lui montre la fameuse version NES que les Japonais ont fait en rachetant la licence. Et là, Elorg a la mâchoire qui tombe, il dit « Quoi ? C'est quoi cette version d'arcade ? Depuis quand on a autorisé une version d'arcade ?» Donc là, il découvre le truc, Rogers calme le jeu, il dit « Non, attendez, ok, on va arranger ça. C'est-à-dire, on vous donne un pourcentage rétroactif sur toutes les ventes qui a eu lieu sur la NES, comme ça on reste copains. »
Et la NES, elle était sortie en quelle année ?
Je n'ai plus les dates, mais elle devait être sortie 2-3 ans plus tôt, je crois. Stein, pendant ce temps, lui rencontre Elorg, putain, j'arriverai jamais.
C'est du mal, hein.
Ouais. Pour préciser son contrat, parce que lui, il a une licence normale pour tous les ordinateurs. Ouais, mais là, Elorg décide que, d'accord, alors maintenant, on va définir ce que c'est qu'un ordinateur. Parce que la NES c'est un ordinateur ou c'est pas un ordinateur ? Donc on va dire que c'est tout appareil équipé d'un clavier, d'un lecteur de disquette ou d'un disque dur et d'une unité centrale. Point. Ça c'est un ordinateur. Tout le reste t'as pas le droit de faire de version Tetris. Voilà. Et en fait, c'est en sous-main, c'était le type de chez Nintendo, Rogers, qui avait dit à Elorg de faire ce genre de choses pour que lui puisse espérer avoir l'exclu console.
Putain. C'est compliqué. Mais ouais, c'est Lost.
Et non, mais ça c'est... pourrait faire une série. Hein.
C'est Lost. Non, pas tout à fait, mais c'est une belle série. Stein, pendant ce temps, il dit ok, je fais que la version ordinateur, mais j'achète les droits des bornes d'arcade dans les salles d'arcade. Et donc il les chope, les droits. Alors maintenant, le type de Rogers continue à discuter avec Elorg, il lui montre une petite cartouche NES Atari, ce coup-ci. Vous savez, la version Atari, la version Famicom. Spectrum, en fait, c'est quand Elorg monte à... C'est Elorg qui monte cette cartouche,
c'est
pardon.
C'est compliqué.
Elorg monte la cartouche Atari qu'ils ont trouvée entre-temps sur la Famicom. Et là, Spectrum Holobite dit « Oh non, je vois pas ce que c'est. Ça doit être une version pirate, on n'a jamais vu ça. Je connais pas. » Alors qu'à mon avis, ils étaient peut-être... C'est pas sûr, hein, mais ils étaient peut-être déjà au courant qu'Atari faisait aussi une version Tetris. Donc là, je vous coupe un petit peu l'histoire des guerres qui vont faire que il n'y a pas encore de mort.
Bah non, s'il y a de la baston.
En fait,
quoi,
au final, Elorg décide de vendre les licences aux plus offrants entre Bulletproof, la société japonaise de la NES, et Spectrum Holobite. Finalement, en mars, toute la clique Nintendo va à Moscou et allonge un chèque supérieur à tous les autres chèques. Et donc, Stein est prévenu carrément par téléphone que les droits de console qu'il avait volés finalement pour les versions qu'il a fait sont revendus à Nintendo via Bulletproof pour 10 millions de dollars. Donc ça y est, toute la société Spectrum Holobite n'a plus le droit à la version NES.
Ah, donc c'est à
NES.
Profit à Nintendo tout ça quoi.
Enfin, elle avait fait expert, voilà. Et Atari aussi, il y avait sa version Famicom. Et ben, ils peuvent prendre leurs cartouches et se les ranger dans un hangar, puisque c'est ce qui va se passer. Voilà,
ils vont se prendre une cartouche.
Et là, Atari l'a extrêmement mauvaise. Donc, ce qu'ils font, c'est que, après avoir rangé leurs cartouches dans un hangar sans pouvoir les vendre, ils déposent le copyright des créations audiovisuelles du code de programmation de la bande sonore de l'adaptation de Tetris sur NES.
C'est la fameuse musique qu'on peut entendre.
Donc, ils déposent pas le jeu, mais toutes les créations qui ont été faites autour. Voilà.
La riposte de fourbe.
Évidemment, toujours sans mentionner Alexei. Les procès Nintendo Atari continuent. À dire, par exemple, Atari dit « Ouais, mais attendez, on nous a revendu la licence, Spectrum Nolobite avait la licence pour ordinateur. Et puis la NES, c'est un ordinateur, puisque via le port d'extension, on peut rajouter un clavier. »
Ah, les filous.
Et la preuve que c'est un ordinateur, c'est qu'aux États-Unis, on l'appelle Famicom, ça veut dire Family Computer.
C'est vrai, ça? C'est pas... Oui, c'était pas une vieille excuse à deux balles, non, c'est vrai, ça. Putain.
Ça, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Famicom aux États-Unis. Bon, ils ont quand même fini par perdre les droits, quand même, parce que c'était un petit peu gros. Mais ils ont essayé de se battre.
Dernier sursaut.
Du coup, en juin, le juge tranche, toutes les licences de Spectrum Holobyte sont illégales. Toutes les hors ordinateur, bien sûr. Nintendo a gagné, il n'y aura qu'une version sur des produits Nintendo de Tetris.
C'est con. Voilà. Enfin, c'est...
Bon, en vrai.
C'est compliqué,
c'est un truc de fou,
ouais.
Hein.
Je pensais pas que c'était aussi compliqué. Ouais, parce qu'au final, Tetris, c'est quand même pas terrible, hein, non?
What? C'est un des plus grands jeux de l'univers.
Bon, arrête, c'est de la merde.
Alors, si je résume, là, il reste les versions Spectrum Holobyte qui existent toujours, Mirrorsoft, moi, c'est celle auxquelles j'ai joué quand j'étais ptio. Enfin, pas si petit que ça, d'ailleurs. C'est seulement sur micro-ordinateur, c'est sorti sur tous les formats micro-ordinateurs possibles, et il reste la version Nintendo. Est sorti sur Game Boy et sur NES. Et sur Super NES aussi, je crois. D'ailleurs, après, les droits pourront être un peu plus distribués, mais ce sera bien plus tard. La version Tetris, c'est comme c'est quand elle est commercialisée, en juillet, il y a 3 millions d'exemplaires qui sont vendus aux États-Unis.
Ouais.
À l'époque, ouais, c'est un truc de fou. En même moment, la Game Boy sort et elle est accompagnée de Tetris. D'appel en contre-appel, le procès entre Nintendo et Atari sur Tetris s'achèvera en 93.
Ça a duré combien de temps ? Presque 10 ans, alors ?
Pas tout à fait, mais 8 ans, un truc comme ça, ouais.
Il devait y avoir des armées d'avocats, ça devait y aller dans tous les sens.
Il y a eu 30 millions de cartouches de jeux fabriquées, au final, avec toutes les versions. Atari a eu le temps quand même de créer 20 000 bornes d'arcade. Je sais pas si vous en avez vu, moi j'en ai vu. Ça fait pas beaucoup, hein, 20 000 versions arcade. Bah, elles étaient déjà vendues, à mon avis, ils pouvaient plus faire grand chose contre ça.
C'est du collector.
Ouais. Et l'orgue éclate avec l'effondrement du bloc soviétique. Hein. Alexei n'a jamais rien touché, n'a pas touché le moindre sou. Par contre, en 96.
Ah oui.
Mais il a foutu un beau bordel.
En 96, en récompense pour son travail, l'Institut des sciences informatiques lui a offert un superbe PC 286 et un appartement de fonction. Et oui, on a réussi. Hein.
Ah.
Et maintenant, depuis, il a créé la Tetris Company, Tetris Company LLC. Et grâce à un accord signé avec Rogers de la NES, il touche maintenant des royalties pour sa création.
Est-ce que c'est rétroactif ?
Eh ben, rétroactif, je sais pas, puisque l'orgue avait déjà touché les droits rétroactifs, donc je pense pas.
D'accord. Est-ce qu'il aurait pu avoir un petit bonus
je sais pas.
Rétroactif, je sais pas comment il a négocié.
Mais depuis, je pense qu'il a créé d'autres suites. Il a créé un certain Weltris. Je sais pas si vous
c'est
avez joué à Weltris.
En rond
non, Weltris, c'était un Tetris où tu voyais le puits du dessus. Et les pièces glissaient sur le bord. C'était comme, c'est-à-dire elles n'avaient pas d'épaisseur. Tu vois ce que je veux dire. Elles tombaient de quatre côtés en même temps, si tu veux finalement, sur le fond de l'écran. C'était pas extraordinaire.
Ouais.
Comment tu fais pour un fond avec quand ça vient de quatre côtés?
Imagine des textures, des pièces en des post-it qui couleraient sur le bord. Comment te dire?
Le bord de quoi?
Le bord des. Tu as un puits rectangulaire, carré du moins.
D'accord.
Où les pièces arrivent sur le côté en glissant sur le mur, mais sans épaisseur, et elles se couchent sur le fond. Tu vois, comme si elles glissaient contre le bord.
D'accord.
Moi j'avais joué à ça. C'était pas très très jouable, et finalement il faut faire des lignes aussi bien horizontales que verticales.
Ouais.
Ouais. Pourquoi pas.
Quand même, Tetris, ça a créé un genre, le puzzle game. C'est quand même le premier.
Oui, moi c'était pas de mon époque, alors après je peux pas dire.
Ouais. Ça, je veux bien te croire.
Oh, ça a l'air
ah ouais, non, mais je vais leur
ça va.
Et tu connais les dinosaures?
Voilà, très sympa. Tu sais, moi aussi, j'étais pas né à l'époque des dinosaures pourtant.
Ouais, non, mais allô quoi.
Allô, tu connais pas les dinosaures?
Voilà, donc il y a quand même. C'est marrant parce que Tetris, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a un paquet d'easter eggs, vous voyez ce que c'est les easter eggs? Ça mériterait un dossier.
Enfin, c'est pas un easter egg.
Non, non, alors non, ça c'est la fin de la version Game Boy où tu fais décoller une fusée, tout le monde l'a pas vu, c'est vrai. Et la version B, c'est pas la même fusée.
Ouais, quand on appuyait sur bas en lançant la cartouche, il y avait pas un truc comme ça? On pouvait augmenter les niveaux?
Non, mais il y a des. Ça, je sais pas, moi je parle d'autres logiciels qui ont en easter eggs Tetris. Ouais. Par exemple, peut-être que vous avez le logiciel qui s'appelle MuTorrent.
Ou j'avais.
Ou UTorrent, c'est comment tu l'appelles?
Je ne vois pas de quoi tu parles.
C'est un truc pour télécharger des versions Linux sur BitTorrent.
Ah oui, oui, ah voilà. Oui, ça, oui. Ubuntu.
Et ben si vous allez sur le About dans les menus et que vous appuyez sur la touche T, il y a un petit Tetris.
Oh, c'est mignon.
Ah bon.
Voilà.
Est-ce qu'il paye des droits?
Et on le retrouve. C'est, je
ah
ne
oui,
sais
tiens,
pas.
Pour les jeux.
Il y a une, il y a une époque où le. Mais non, si tu veux créer une version de Tetris, t'es censé payer des droits. Mais pas depuis longtemps. Il y a une époque où c'était toujours le flou artistique, tu pouvais faire ce que tu voulais.
En même temps, aussi avec toutes les, par exemple, les versions Flash qui sortent, ça doit être aussi difficile à récupérer des droits là-dessus.
Voilà.
Ouais.
Je pense qu'ils ont un peu laissé tomber l'idée.
Mais ils en ressortent aussi des fois, des Tetris HD ou des trucs comme ça.
Ouais, bah, il y a Electronic Arts qui a une licence, puisqu'ils en sont sortis, hein, qui est presque jouable autant que sur clavier, sur téléphone.
Electronic Arts.
C'est-à-dire au doigt, ça se joue presque bien.
Est-ce qu'il faut rester connecté sur Internet pour jouer à Tetris?
Est-ce qu'il faut rester connecté? Non, pas encore. C'était peut-être la prochaine version.
Ouf, alors.
Ils vont me dire que ça permet d'avoir un Tetris social.
Je confirme que sur UTorrent, ça marche. Je suis dessus.
Pirate.
Tipiac.
Le jeu en direct.
Et y a, sur OS X, via le terminal, en tapant une commande, on retrouve un Tetris aussi.
Ah ouais, bon.
Ouais, j'aurais parlé du Mac, je pouvais être fier de moi.
Ah, on parle pas de Mac.
Ouais.
D'accord. Moi, je vous recommande un petit soft gratos qui s'appelle Tetrinet. Je sais pas si vous avez déjà joué à Tetrinet. C'est un Tetris qu'on peut jouer en réseau et en s'envoyant des saloperies les uns sur les autres. Et on peut jouer.
Est-ce qu'on peut parler de ce sport qui s'est démocratisé avec Big Bang Theory, qui est le Tetris bras de fer?
C'est vrai, ouais. J'avais oublié, tout à fait.
D'une main, on joue à Tetris, et de l'autre, un fin bras de fer, et il faut gérer les deux.
Ouais.
C'est comme la boxe échec.
Ouais, boxe voilà, échec, ça marche. Ah, ce serait bien de faire un dossier là-dessus. Enfin, bref.
Ouais. En fait, chaque fois qu'on va faire un dossier, on en trouve trois autres, ça va devenir
très
cool, compliqué.
Ça vous reviendrait.
Ouais. Moi, je suis en train de penser à un dossier aussi, depuis que j'ai commencé.
Je sais ce que c'est, tu le gardes et je le réserve.
Voilà.
Je sais pas ce que c'est.
Mais je le garde quand même.
Donc je te le laisse.
Et donc, voilà, l'histoire des Tetris. Alors maintenant, il y a des... Je sais pas si vous avez vu les versions d'arcade qui sont sorties, sur lesquelles il y a des championnats du monde qui sont monstrueux. Où ils arrivent au dernier niveau à ne plus à jouer en aveugle, c'est-à-dire on ne sait que la pièce qui va tomber et c'est tout.
Putain.
Et faut voir les replays sur le net, j'essaierai de vous mettre un lien dans le billet, c'est impressionnant.
D'accord.
Voilà pour l'histoire de Tetris.
C'est
compliqué. Une bataille juridique que je vous ai pourtant un peu simplifiée, mais autant dire que c'est titanesque. Ouais.
Ça avait l'air d'être un sacré bordel, effectivement.
Mais c'est le problème de la Russie qui n'avait pas de vocation commerciale à faire ce jeu au départ.
Oui.
Voilà.
Mais les pourritures capitalistes, ils sont emparés du truc.
Ils sont arrivés. Les vampires.
Ouais, je m'en récupère. Bon, bah, très bien. Merci.
Ils vous
en prie. Et on va faire bosser Titours maintenant, parce que c'est pas tout ça. On va. Et tu vas nous parler de quoi déjà?
Je vais vous parler du catch. Donc déjà, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment le catch, je vous préviens, je vais trancher dans l'art. J'ai qu'une petite demi-heure, donc je vais oublier pas mal de trucs. Ne vous inquiétez pas.
Tetours va-t-il réussir son défi? Une demi-heure.
Ouais, ça va être compliqué. Je vais essayer d'être assez généraliste et pas trop non plus, histoire que Fly qui connaît pas du tout, Pépé qui connaît un petit peu, s'y retrouve un minimum.
Je connais, ouais, je connais un peu.
Voilà, donc histoire que ça reste convivial pour tout le monde, que vous connaissiez ou non.
Très bien.
Donc je vais commencer par une vague histoire du catch. Donc le catch, je vais parler surtout du catch entre guillemets américain, tel qu'on peut le voir à la télé. C'est le plus accessible, on va dire, donc c'est surtout sur...
Est-ce que tu vas parler de How to Catch a Predator ?
Non.
D'accord.
Non, ça serait trop long. Alors, déjà, le catch, donc je vais vous épargner tout le côté lutte gréco-romaine et jeux du cirque et tout le bordel. Je ne parlerai pas non plus du Guren. Pépé, est-ce que tu sais ce que c'est que le Guren ?
Non.
Eh bien, c'est la lutte bretonne.
Ah, je croyais que c'était oui. Le hamburger au Canada. Oui, ils ont un gouren, non ?
Tout doux.
Je sais pas si c'est une blague, mais je préfère mettre la...
Voilà. C'est un peu pris. Bref. Alors, la vraie base du catch en tant que divertissement sportif, en fait, c'est des spectacles forains. Dans la première, vers la moitié du 19e siècle, en gros, il y avait le champion qui était là, qui voulait faire son show, qui... commencer à dire à la foule, ouais, qui c'est qui veut se battre contre moi, toi, et toi là-bas, je vais te péter la gueule, viens voir là. Et donc, en fait, il commençait à se battre avec le gars qui était évidemment un complice, et donc la foule était ravie, il trouvait ça super sympa. Donc, après ces fins du 19e, les États-Unis reprennent le concept pour en faire un show à part entière, et là commencent à arriver les managers qui vont commencer à avoir plusieurs catcheurs sous leur aile et à organiser des petits combats avec eux. Après, on passe au début du 20e. Donc là, il y a une multitude de petites promotions indépendantes qui se sont créées aux États-Unis principalement.
D'accord.
En général, il y a ça, il y en a une, voire plusieurs par état dans tous les États-Unis.
Oui, et puis c'est du spectacle live, il n'y a pas du tout de retransmission, quoi que ce soit, radio ou...
Ah non, pas encore. Non. Et donc, alors, c'est vers 1930 que les premières fédérations apparaissent. Donc les fédérations, ça regroupe donc les petites promotions. Donc, et en fait, là, c'est géré par des promoteurs. Donc, les gars, ils ont l'habitude du divertissement, ils font des spectacles de cirque, de western, de roller derby, etc. Et en fait, s'ils se regroupent, c'est parce que c'est surtout pour lutter contre la concurrence des autres. Parce qu'ils se disent, si on a plus de catcheurs, si on a plus de monde, on peut plus se faire rouler, c'est un peu plus intéressant, donc on a un meilleur produit à vendre. Donc dès 1930, ils ont une vision assez marketing du truc. Voilà. Et en fait, c'est au même moment qu'au Mexique, le CMLL, El Consejo Mundial de Lucha Libre, est créé. Donc c'est une des premières fédérations de catch mexicaines qui existe toujours d'ailleurs. C'est la plus ancienne qui existe actuellement. Ça, sur toute la planète. Après, dans les années 50, ça devient populaire un peu partout dans le monde, et même en France, et surtout en France. Donc il y a la télé, donc les plus connus, c'est L'Ange Blanc, Le Bureau André de Géant. Béthune.
L'Ange Blanc.
L'Ange Blanc, forcément, Le Bureau de Béthune, c'est des plus connus. Le Petit Prince, Chéri Bibi, et évidemment André le Géant, qui est une grande star française, qui d'ailleurs fera une grande carrière aux États-Unis, qui sera même intronisé au Hall of Fame. Parmi les meilleurs et qui, dont tous les catcheurs, tous les gens qui ont travaillé avec lui disent qu'il était vraiment quelqu'un de super sympa, super génial. Et d'ailleurs, ce mec, il était assez génial parce qu'il était tellement balèze qu'il avait peur de faire aux autres, donc il retenait toujours ses coups.
Mais
et d'ailleurs, j'avais
il était géant à quel point ?
Alors, je vais te dire ça tout de suite, il faisait 2m23.
C'est géant,
Pour 225 kilos.
Surtout à l'époque.
En fait, il était atteint de maladie de...
gigantisme.
Enfin, je ne sais plus exactement. Gigantisme, voilà. Et en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, il est resté invaincu pendant 14 ans. De 1973 à 1987.
D'accord.
Jusqu'au WrestleMania 3 contre Hulk Hogan, où il a perdu. Et c'était devant 93 173 personnes.
Et
c'est le record mondial de spectateurs pour un
show. Et pendant ce temps en Russie, on essayait d'acquérir les droits de Tetris.
Voilà. Et donc, et sachant que c'était donc retransmis à la télé en France, et c'était commenté par Roger Coudert et Thierry Roland.
Thierry Roland qui commentait ça,
je sais pas. Dans les années 50.
Ah, il commentait du catch.
Exactement.
Voyons.
Et voilà. Donc, et aussi dans les années 50, il y a eu la première fédération japonaise. La JWA, la Japan Wrestling Association, qui a été créée, et qui changera de nom en 1973 pour la All Japan Pro Wrestling, qui existe toujours d'ailleurs.
Je savais même pas qu'il y avait du catch japonais.
J'en parlerai un petit peu plus tard justement pour expliquer les différents styles.
Ouais, mais ils avaient aucune marge de manœuvre, ils étaient bridés quoi.
Oh, c'est moche. C'est moche.
Alors, dans les années 70, c'est la création de la deuxième fédération japonaise, la New Japan Pro Wrestling, qui existe elle aussi toujours. Alors, en 83, là je trace un petit peu l'historique. En 83, donc il y a Vince McMahon, qui est connu de tous les fans de catch, parce que c'est le président actuel de la WWE. Voilà, et donc son père, qui était un des premiers promoteurs dans les années 30 à faire une fédération et avoir commencé à faire la première fédération. Donc il prend son indépendance avec la WWF, et c'est lui qui fait vraiment rentrer le catch dans l'ère moderne pour en faire un vrai show, un vrai divertissement, quelque chose d'assez énorme.
J'ai juste une petite question. Oui. Vince McMahon, là, il combattait ou pas?
Aussi.
Parce que à chaque fois que je voyais sur le ring, il se passait toujours quelque chose qui faisait qu'il combattait pas. Genre, il était juste mis en un coup par terre.
Il était plus là. En fait, au début, il était commentateur, il était manager. Enfin, il a fait plein de trucs. Il a toujours baigné là-dedans, de toute façon. Mais il a aussi catché, il a fait pas mal de matchs où il prenait sévèrement aussi. Voilà. Donc ça, c'était en 83, donc ça commence l'ère moderne. Donc en 84, il a récupéré Hulk Hogan, donc ils l'ont fait le champion de la fédération. Donc c'est le début de la Hulkamania.
Ah oui.
Donc avec tout le merchandising qui commence à se mettre en place et compagnie. En 85, c'est le premier grand événement sur une chaîne payante, donc c'est WrestleMania, donc c'est le premier
pay-per-view.
Show. Voilà. Non, le premier pay-per-view, c'est quelques mois plus tard.
Ah ouais.
Le WrestleMania, je crois que c'est en...
Ah, s'il y avait déjà des solutions de pay-per-view en 85.
Oui, wow. Exactement, c'est le premier, c'était ce qui s'appelait The Wrestling Classic. En fait, si ça s'est beaucoup développé, ça je l'ai pas mis, mais je le sais quand même, c'est... j'oublie son nom à ce moment, c'est pas grave. C'était un des gars qui avait fait du network aux États-Unis, un des premiers à promouvoir ça, qui avait investi énormément là-dedans, et qui s'est fait un peu, on va dire, enfler, pas loin, mais en fait, il a gaspillé beaucoup d'argent là-dedans, et pour au final, pas grand-chose.
D'accord.
Donc c'est ce que je dis après, c'est le catch à partir des milieu des années 80, donc ça devient de plus en plus populaire, donc ça génère de plus en plus d'argent. Donc il y a une lutte acharnée entre les différentes fédérations, il y a la WWF, la WCW, la ECW.
C'est vraiment là que c'est devenu une manne à pognon en fait.
Voilà, et en fait, qui dit pognon ne dit pas forcément bonne gestion.
Forcément.
Et en fait, donc pendant ces années-là, donc ils essayaient de faire les meilleurs shows, donc ils rachetaient les catcheurs d'une fédération à l'autre pour avoir la star, pour pouvoir faire des trucs, ils ramenaient des guests dans tous les sens. Le problème, c'est que beaucoup ont eu des bonnes idées, mais il y a aussi eu des idées très pourries. Et le problème, c'est quand tu as des idées à la con, le public, au bout d'un moment, il ne suit plus. Ce qui fait qu'à un moment, une fois, il y avait un match, tu avais Hulk Hogan qui devait se battre contre un gars pour la ceinture. Hulk Hogan, il appuie un doigt sur le torse du gars, le gars tombe, il fait le tomber, il gagne la ceinture, et après il saute dans les bras l'un de l'autre. Et en fait, cet épisode-là, ça a marqué la fin d'une des fédérations, là, c'était la WCW. Et sachant que le problème, c'est le gars qui tombe face à Hogan, donc Kevin Nash, c'était lui qui était chargé d'écrire les histoires.
Ah d'accord, c'était le...
Donc en gros, le gars, il s'est mis lui-même en avant. Donc ce gars s'est fait régulièrement maintenant traiter de connard par certains anciens catcheurs, genre Goldberg ou Stone Cold Steve Austin, qui eux n'ont pas dans leur poche, donc ils font très bien comprendre que ce gars a pourri le truc, c'est lui qui a...
Qui a détruit, là.
Qui a tout foiré. Et donc, quelques années plus tard, donc il y a plusieurs fédérations qui ont fait faillite, qui se sont fait racheter par les autres. Ils ont relancé des anciennes fédérations pour un peu relancer le truc, pour avoir des idées, mais finalement, ça n'a pas marché. Enfin bref, c'était un peu le bordel pendant quelques années. Mmh. Et ça s'est calmé, en gros, au début des années 2000, où il y a surtout la WWE donc, qui s'est imposée. Non, ça a changé. Oui, justement, ils sont pris en procès de la WWF, donc la protection des animaux.
C'est ce que je suis en train de dire.
Et ils ont perdu. Donc, c'était la World Wrestling Federation. Et ils sont devenus la World Wrestling Entertainment. Voilà. Donc, divertissement.
Ils ont rajouté une petite barre en bas du.
Voilà. Donc aujourd'hui aux États-Unis, donc on a surtout la WWE qui regroupe Raw et SmackDown qui sont diffusés sur RTL 9 et NT1.
En France, ouais, d'accord.
Donc voilà, en France, il y a Impact Wrestling qui est anciennement la TNA qui est diffusée sur ma chaîne sport. Donc là, ça a été créé par des anciens justement qui ont créé leur fédération parce qu'ils retrouvaient pas de boulot la WWF. Donc ils se sont dit bon bah on va créer notre propre fédération. Donc ils ont récupéré beaucoup d'anciens et certains qui se font virer de la WWE y vont. Et inversement, enfin bref, ça marche dans les deux sens.
Masse communicant.
Mais bon, ça reste quand même. Même si la qualité est bien, ils ont moins de diffusion, quoi. Ils ont moins d'impact. Ouais. Donc forcément, ça reste en dessous, on va dire. Et il y a aussi la Ring of Honor qui existe, qui là, c'est plus le côté technique qui est privilégié. Donc c'est pas forcément des grosses masses. Ils font pas d'histoire dans tous les sens. Ils ont pas forcément de storyline sans fin.
D'accord.
Ils mettent l'accent surtout sur le combat, ça donne des matchs plus longs, plus fluides, plus techniques, et le public aime beaucoup ça en fait. Et beaucoup d'actuels champions ou de main eventers de la WWE viennent de la Ring of Honor justement. Voilà. Donc alors au Mexique, la lucha libre, comme style, c'est beaucoup plus aérien, c'est plus spectaculaire, avec les masques et tout, c'est un peu plus coloré.
Rey Mysterio.
Voilà. Exactement, entre autres. Il y a eu Sin Cara dernièrement, il y a Alberto Del Rio qui est le champion actuel, qui est pareil, qui est mexicain, la petite musique de fond. C'est beaucoup d'appui sur les cordes, donc ça voltige beaucoup, ils sautent aussi beaucoup vers l'extérieur du ring. Donc, malheureusement, il y a quelques blessures à cause de ça. Sin Cara s'était blessé comme ça en sortant, il était mal retombé, il s'était un peu flingué le genou. C'est beaucoup plus rapide, donc c'est aussi moins violent. Donc ils limitent les coups justement pour éviter de se blesser. Alors qu'au Japon, donc où le catch est appelé le puroresu, excusez-moi l'accent. Alors là, c'est encore différent parce que bien qu'ils reprennent donc le style un peu lucha libre, c'est quand même beaucoup plus violent.
Ah ouais.
Parce que là-bas, c'est considéré comme un sport, donc il n'y a pas de storyline. Et
oui,
en fait, ils pratiquent ce qu'on appelle le shoot wrestling, c'est-à-dire qu'ils n'atténuent pas les coups.
Ah oui, d'accord. S'ils tapent, ils font pas,
voilà,
semblant. Ouais.
Enfin, ils essayent de limiter, mais pas trop, parce qu'il faut que justement. Mais ils sont obligés de le faire, parce que sinon le public ne réagit pas.
S'il n'y a pas de sang, un petit peu de sang.
Forcément.
Pas.
Enfin, pour les matchs classiques, pas besoin, mais il faut que les coups, les projections, ça claque bien. Il faut que ça ait l'air réaliste. Et chez eux, justement, il y a les matchs hardcore qui sont beaucoup plus autorisés, on va dire, que maintenant la WWE, qui bannit un petit peu le truc, mais ça je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc ils utilisent les chaises, les tables, les échelles, les kendo sticks aussi, c'est un élément qui revient souvent.
Quoi
les kendo sticks, c'est les trucs de kendo.
Ah, les kendo sticks,
voilà. Voilà. Les fils de fer barbelés, des fois.
Ouf.
Et les punaises.
Ah, ça pique.
Un petit peu, mais justement ça, c'est, je vous en ferai tout un
petit peu.
Voilà. Donc en France, par contre, c'est pas trop ça actuellement, parce que le problème, c'est beaucoup de petites fédérations, mais c'est du catch, on va dire, à la française ou à l'européenne. Donc c'est pas vraiment, donc c'est plus près de la lutte que du catch américain.
Ouais.
Donc ça, on va dire, assez traditionnel, et c'est pour ça qu'en 2002, il y a eu Pierre Buster Fontaine. Donc, si qui n'écoute, c'est le gars qui a le t-shirt Freeman dans ta gueule. Et qui a créé avec Christophe Ajus, qui est un des deux commentateurs français, qui ont créé la ICWA, qui veut dire International Catch Wrestling Alliance, dont le but est de promouvoir un catch plus américain en France.
D'accord.
Justement pour avoir un parté un peu plus de peps au catch, qui est un peu, on va dire, poussiéreux en France, malheureusement. Parce que c'est pour ça aussi que ça marche pas trop, ça c'est assez...
spectaculaire.
On va dire casser la gueule après les années 50, c'est parce que c'était mal vu de faire du catch, c'était ringard, c'était truqué, c'était vilain.
Ça avait une image plouque un peu...
Mais totalement.
Amérique profonde, ouais.
Voilà, et en fait c'était...
Ça se prenait trop sérieux.
Justement. Même pas quoi, c'est juste qu'après il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voulu prendre le truc parce que c'était tellement dénigré. C'était tellement mal vu de faire ça que personne n'a suivi, et donc progressivement c'est un peu tombé. Et donc en France, c'est redevenu un peu à la mode vers fin des années 90 parce que c'est rediffusé à la télé. Et pour moi, les présentateurs, enfin les commentateurs, donc Christophe Agius et Philippe Chéroux jouent énormément dans le succès du catch à la télé et en France surtout. Ils sont vraiment énormes. Je vous conseille d'écouter hein, une fois.
Ils sont ouais, c'est vraiment des bons commentateurs.
Une fois, j'étais avec des amis, ils se disent oh non, c'est le catch à la télé, fais chier. Je t'ai dit attends, regarde 3 minutes, dans 3 minutes, tu vas gueuler.
Et
au bout de 3 minutes, ils étaient en train de gueuler par-dessus la troisième corde et tous les trucs comme ça. Ils ont inventé des prises, genre l'étranglement des yeux, quand le gars fait un coup de la corde à linge, c'est-à-dire qu'il tape le gars qui fait un tour complet. Là, c'est Marie-Antoinette style. Donc il y a pas mal de répliques, ils se vannent entre eux. Donc il y a Chéreau qui est plus commentateur sportif et Agius qui était un fan de catch, qui au début a envoyé des courriers pour dire là vous êtes planté, au lieu de ça vous avez dit ça, au lieu de ça vous avez dit ça.
Ah ouais, il a commencé comme ça.
Un jour ils lui ont dit bah écoute viens faire des essais, t'as l'air de t'y connaître et tout. Et il s'est dit bon bah je vais y aller, je vais leur expliquer comment ça marche et je vais me barrer. Puis finalement ils ont dit que ça marchait bien, ils l'ont gardé.
Bien.
Voilà. Donc alors le catch, c'est surtout un divertissement sportif avec de l'action, de la violence, du sang et des femmes dénudées.
Ah, tout de suite, c'est mieux.
Ah bah voilà, c'est vendeur. Donc en fait, c'est tout est codifié dans le catch. C'est tout ce qui peut exister à un nom particulier. Donc je vais commencer par le kayfabe.
Ah, enfin.
Mon péremptoire me parle régulièrement. Est-ce que tu sais ce que c'est exactement le kayfabe?
J'espère pas me planter. C'est en gros un en fait, c'est l'histoire, enfin, ne pas briser l'histoire, en fait, c'est rester dans
voilà.
son rôle. Quoi.
En fait, voilà, c'est le secret professionnel, en gros. C'est comme pour la magie, vous savez qu'il y a un truc, mais l'intérêt du show, c'est le tour de magie.
C'est le RP, pas. En fait. Le voilà, roleplay.
Tu vas pas dire, quand tu vas regarder un tour de magie, bon, c'est naze, c'est truqué. Tu vas dire, ah putain, c'est bien fait. C'est comme pour une pièce de théâtre, ça, c'est, je reprends ce qu'avait expliqué Chéreau et Agius dans une interview. Quand tu vas voir une pièce de théâtre, genre Roméo et Juliette, t'as les personnages qui meurent à la fin. Quand t'as les acteurs qui viennent à la fin pour saluer le public, t'as personne qui va gueuler à un moment, chiquer, ils sont pas morts.
Oui.
Voilà. Ouais, ouais. Ben, le catch, c'est pareil. C'est les gars, ils sont là pour te raconter une histoire, pour jouer une histoire, mais ils donnent de leur personne, ils peuvent se blesser, ils peuvent se faire très mal. Donc après, donc pour les catcheurs, donc ils sont classés en face, L et twinner. Donc les face, c'est les gentils. Voir babyface quand c'est des super gentils comme John Cena. Donc ce qui est marrant avec Cena, c'est que pendant ses matchs, c'est un face, donc normalement tout le monde devrait l'apprécier, mais il est tellement face qu'il y a plein de gens qui en ont marre et qui l'aiment plus, ce qui fait que pendant quasiment tous ses combats, ça gueule dans le public « Let's go Cena » et « Cena sucks ». Donc c'est marrant, donc il y a les L, c'est donc les méchants qui sont censés être détestés par le public. Et au milieu, il y a les twinners. Donc c'est les gars, on sait pas trop où
ils changent
sont.
Un peu de camp
pas forcément, parce que pour changer de camp, t'as les face turn et les hell turn.
Et est-ce qu'il peut y avoir un hell turn, face turn qui fait deux fois le tour?
Pas trop. Non, ça peut éventuellement, mais c'est rare. C'est quand même très rare. Ils essayent pas rentabiliser, mais enfin d'adapter.
Oui, puis que les gens arrivent
mais
à suivre.
Après, ça peut se faire. Voilà. Bah, disons que si ça marche pas, ils peuvent très vite revenir sur le truc. Mais en général, ils savent qu'ils ont prévu justement toute une storyline par rapport à ça. Et donc pour les twinners, donc c'est les gars qui sont un peu au milieu ou alors qui n'ont pas la réaction prévue du public. Genre Stone Cold Steve Austin, le gars il boit de la bière, il insulte tout le monde, il fait des fucks. Il a même fait une fois sur le ring, il a même fait un fuck devant Mike Tyson avant de le pousser.
Mike Tyson.
Donc il a un peu des bollocks le mec. Mais justement tous les mecs l'adoraient. Et donc pour en arriver au terme suivant, donc la catchphrase.
Eh oui. Hein.
Parce qu'une bonne catchphrase, c'est un truc que le public reprend en cœur tout le temps. Donc un des trucs de Stone Cold Steve Austin, c'était de crier What à chaque fois que quelqu'un lui parlait à chaque fin de phrase. Ce qui fait qu'après, à chaque fois qu'il faisait un discours, t'as tout le public qui gueule What. Et même quand t'as le président Weckman ou d'autres catcheurs qui font un discours et que c'est un peu chiant, t'as tout le public qui va gueuler What à chaque fin de phrase.
D'accord.
C'est un des trucs qui est assez récurrent. T'as pareil Vicky Guerrero qui est donc général manager.
Putain, je peux pas la blairer celle-là.
Voilà, donc à chaque fois qu'elle arrive, elle gueule Excuse me. Donc avant qu'on la voie, tu l'entends gueuler et là t'as tout le public qui commence à la huer. C'est automatique, ça marche super bien.
Elle est faite pour être détestée, quoi, c'est ça?
voilà, c'est en gros, c'est son histoire, elle. Donc il y a aussi les wouh de Ric Flair. Donc à chaque fois qu'il collait en atémie, on voit en atémie, c'est une petite claque sur le torse. Donc c'est un truc qui claque bien, c'est très impressionnant à entendre. Parce que j'avais eu ça quand j'avais été les voir à Bercy en live. J'étais à peu près au 10e rang et je peux vous dire que ça a pas l'air. Mais quand t'es dans la salle, ça claque vraiment. Et je crois que c'était le Big Show qui avait claqué je sais plus qui. Donc le Big Show, pour vous donner une idée, attends, je l'ai noté quelque part, c'est 2m13 pour 220 kg. Donc après, donc, par rapport aux catchers, donc ils sont classés en main eventers, donc c'est ceux les soit les meilleurs techniquement, soit les meilleurs en micro. Parce qu'il y en a des fois, ils sont pas forcément balèzes, hein, pas très techniques, mais ils ont une présence, ils ont quelque chose, ils sont vendeurs, donc forcément.
Soit c'est charismatique, ouais.
Voilà. Ou alors il y en a un dernièrement qui s'est rendu, qui a fait en sorte que le public le veuille, c'est Zack Ryder. Ah. Dont je vous ai filé la musique il n'y a pas longtemps.
Ouais,
donc on vous mettra le lien sur l'article, vous verrez, c'est assez exceptionnel, on va dire. Et en gros, il avait fait en fait une petite web TV sur internet où il faisait un petit show régulièrement. Et pendant les shows, quand le combat était un peu chiant, t'avais tout le public qui gueulait We want Ryder en boucle, et ce qui fait qu'au bout d'un moment ils se sont dit putain merde fait chier, bon ben finalement s'ils veulent on va leur donner. Et donc il a je crois qu'il a été même jusqu'à avoir un match de championnat tellement il était demandé.
Alors qu'il est pas spécialement bon, non?
Bah s'il y a de la WWE, c'est quand même qu'il a un niveau pour tenir la route, parce qu'ils font des shows quasiment tous les jours. Donc faut quand même avoir une sacrée condition physique, une sacrée technique pour faire ça bien. Et genre parce que pour les genre après dans les temps que t'as les mid-carders qui sont les catcheurs en gros au milieu qui peuvent faire plus ou moins évoluer, et il y a les jobbers, et en fait le jobber lui c'est le gars qui va arriver, en gros t'as un nouveau catcheur, ils veulent faire un push sur lui pour montrer que c'est un destructeur, le jobber il va arriver, il va se prendre trois claques dans la gueule,
c'est les red shirts de Star Trek.
Ouais, c'est voilà. De là, c'est... Ouais.
Ça, enfin, ça s'est un peu calmé parce qu'avant, les vrais jobbers ne gagnaient absolument aucun match.
Ah oui, ils étaient là juste pour faire acte de présence.
Voilà,
ils restaient là 30 secondes.
Voilà, ils se prenaient, ils se faisaient ramasser la tronche et ils partaient. Maintenant, les jobbers, ils peuvent quand même gagner certains matchs. Donc après, donc comme je disais, il y a le push, donc c'est le fait de mettre en avant un catcher. Genre, il y a quelqu'un qui va arriver, on a envie qu'il fasse, donc on va le faire. On va faire en sorte qu'il gagne plusieurs matchs pour vraiment le mettre en avant. Donc il y a le FUD, enfin la FUD, c'est la rivalité entre un ou plusieurs catcheurs. FEUD. Donc c'est justement c'est pour dire genre il y a un catcheur qui va se battre contre un autre, finalement il y en a un autre qui va intervenir. Ah là là, mais pourquoi tu m'embêtes toi? Tiens, vas-y, je te tape sur la gueule. Oh FUD, FUD.
D'accord.
Ils vont créer une rivalité entre les différents catcheurs. Ouais, non, en fait, c'est tout est codifié, quoi. C'est pour chaque. Ouais. Tout ce qui peut se passer dans le catch a un nom précis. Donc, après, donc, il y a le gimmick. Donc, ça, forcément, c'est le personnage incarné par le catcher.
Oui, qui a un geste particulier.
Donc, par exemple, voilà, donc Hulk Hogan, c'était le héros américain. Donc, Goldberg, c'était le lutteur invincible. L'Undertaker, c'est le mort-vivant. Santino Marella.
Là, tu parles de noms que je connais, d'une époque où j'ai un peu suivi.
Ouais, oui, justement, j'ai pris les plus connus, histoire que. Santino Marella, tu vois qui c'est, l'italien là?
Ouais, je vois.
Bah, en fait, il est canadien.
Ah, d'accord.
Mais il joue en italien depuis quasiment toujours. Il y avait, avant, il y a plus ancien, il y avait Donk qui était un clown.
Ouais, MVP aussi, c'était, il faisait quoi lui? Ah oui, c'était.
Un peu gangster.
Ouais.
Genre, j'avais fait de la tôle, mais maintenant, je suis clean et tout. Il y avait The Honky Tonk Man qui était une sorte d'Elvis qui avait toujours sa guitare. Et ils ont pété un paquet de guitares avec lui. Ils s'en est pris des centaines sur la gueule, je pense. Et il y avait aussi Eugene, qui jouait un handicapé mental. Et ce qui était assez marrant avec lui, c'est que, en tant qu'handicapé mental, en fait, il reprenait les prises de tous les catcheurs.
Ah,
c'est comme dans,
comme
dans les jeux vidéo, quand tu prends
c'est
les personnages spéciaux.
C'est un peu comme Panda dans Tekken. Non, Yojin dans Tekken 3.
Il y a des trucs de fou parce que toutes les histoires à rallonge complètement alambiquées, c'est repris dans tous les jeux de baston finalement. Ils ont repris ça du catch quoi.
Donc actuellement le look est un peu moins chargé qu'avant, parce qu'avant il y en avait qui avaient des costumes pas possibles. Donc t'en avais un qui était en flic, t'en avais un qui était en inspecteur des impôts, t'avais un gars qui venait toujours avec son serpent, t'avais Huxon Dugan, le charpentier du ring, qui venait toujours avec son bout de bois.
L'Undertaker, il venait pas avec un cercueil ?
Si aussi, mais bon, lui, ça c'est resté cohérent, quoi. Mais lui, justement, ça existe toujours. D'ailleurs, son manager, Paul Bearer, est décédé il y a pas très longtemps. Et donc, donc ils ont arrêté avec les looks, les costumes à paillettes et les gros pics en mousse dans tous les sens, parce que avec le temps, ça devenait un petit peu ridicule.
Ça vieille image, ce genre de truc.
Voilà. Et donc, alors je vais vous parler de quelques gimmicks particulières qui ont fait plus ou moins sensation. Donc, on avait le sergent Slaughtern. Donc, c'était le militaire sapé en treillis, le bon américain de base. Pépé, je ne sais pas si tu vois qui c'est à peu près.
Non, je vois pas lui.
Avec une petite moustache. Donc, début 90. Ah oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'actualité a souvent influencé les gimmicks. Donc, ils ont souvent sorti de ça, donc servi de ça. Donc, début 90, donc il y a la guerre du Golfe qui commence. Et donc, ils prennent le sergent Slaughter, ils le relookent en irakien.
Avec la moustache.
Avec donc avec la petite moustache, avec le kéfier sur la tête. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais.
Le truc, il a le costume de l'armée. De l'armée irakienne, donc forcément, voilà. Donc, c'est le problème, c'est que ça a tellement bien marché qu'il a reçu des dizaines, voire des centaines de menaces de mort.
Sympa.
Et qu'il était obligé de porter un gilet pare-balles et d'être accompagné par des agents de sécu quand il sortait.
Parce que oui, les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre
et donc,
la réalité et la fiction. Ouais.
Voilà. Et donc, ces gars-là, donc, pour répondre à ZQSD qui m'avait demandé sur le chat, on les appelle des MARK. M-A-R-K. En fait, c'est les fans qui croient que le catch n'est pas scénarisé. Qui y croient à fond. Et ce qui est génial, c'est que je suis abonné à quelques pages de catch sur Facebook. Et des gars comme ça, j'en vois régulièrement. Qui insultent les catcheurs, qui vont dire oh, lui, c'est trop un connard, il a blessé machin. Donc il y en a qui sont vraiment à fond dedans, des fois ça fait un peu peur. Donc, aussi dans les autres gimmicks assez particulières, il y a eu Mohamed Hassan qui était joué par Marc Copani en italien, le truc qui n'a rien à voir. En fait, il était là pour défendre les Américains qui avaient été, les Américains musulmans qui avaient été persécutés après le 11 septembre. Le problème, c'est que cette gimmick, elle est tombée en même temps que les attentats à Londres.
Ouais.
Donc forcément, les Anglais n'ont pas aimé du tout, et donc ils ont censuré ça, et donc ça n'a pas duré longtemps.
Ouais, ça tue le personnage.
Voilà. Et donc, une de mes gimmicks préférées, donc le 14 février 2003, donc on a Dominique de Villepin qui fait son discours à l'ONU contre la guerre en Irak. Et à peu près 2 mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit débarquer à la WWE ? La Résistance. Composé par 2 catcheurs canadiens, Sylvain Grenier et René Duplay. Mais on s'en fout, on dit qu'ils sont français, on les fait venir avec le drapeau français, on leur met un petit béret sur la tête, etc. Donc c'était complètement kitsch, c'était génial. Donc une des premières fois qu'ils débarquent, donc t'as tout le public qui commence à gueuler « USA, USA, USA ». Donc c'est assez marrant parce que ça, enfin de toute façon, ça il le crie assez régulièrement quand il y a des combats États-Unis contre d'autres pays. Et un des commentateurs aussi, une des premières fois qu'ils sont arrivés, le commentateur qui dit que je ne mangerai plus de French fries. Donc le truc, bon par contre ils n'ont pas fait durer ça trop longtemps, et ce qui fait que, sachant que les deux ils étaient canadiens et qu'un des deux a été remplacé par un américain, Rob Conway après, finalement au bout je crois que c'est quelques mois, même pas, l'équipe est devenue canadienne. Non, québécoise plutôt, ils arrivaient avec le drapeau québécois, ils avaient l'écusson du Québec sur leur slip et tout.
Ah, et c'est dingue.
Voilà. Et donc en ce moment, ah oui, d'ailleurs ce qui était très drôle, une fois il y avait un match où t'avais tout le monde qui gueulait, donc c'était entre guillemets l'équipe américaine contre l'équipe québécoise, sauf que les 2 catcheurs qui représentaient l'équipe américaine étaient canadiens. Donc sachant que, donc en gros l'équipe québécoise était plus américaine vu qu'il y avait 1 américain sur 2 que l'équipe américaine.
J'ai un peu de mal avec les nationalités, j'ai l'impression, au catch.
Oui, bon, c'est qu'on se les arrange. Bah justement, d'ailleurs, on va en parler juste derrière. Donc, une des gimmicks actuellement, c'est Jack Swagger et son manager qui s'appelle Zeb Colter, qui est le bon américain de base, qui est un vétéran de la guerre et tout, et qui viennent nous expliquer que les vilains immigrés viennent piquer le boulot des vrais américains. Donc, je dois dire qu'actuellement, de voir ça, ça me perturbe un petit peu quand même, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas à virer sur ça. Et donc sachant que Jack Swagger, il est revenu il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois même pas, et en fait il a gagné un match de championnat contre le champion titre qui s'appelle Alberto Del Rio, un Mexicain.
Ah oui.
Anti-immigration mexicain. Coïncidence, je ne crois pas.
Ça sent pas bon.
Voilà, alors certains osent dire que c'est plutôt de la propagande que vraiment des vrais gimmicks. Est-ce que vous êtes d'accord?
Difficile sans le voir, mais de juger comme ça. Mais...
C'est devenu assez politique, j'ai l'impression, ces dernières années.
Bah justement, tu ne crois pas si bien dire, parce que Linda McMahon, donc la femme du président,
ouais.
C'était en quelle année, je ne sais plus exactement, je crois que c'était il n'y a pas très longtemps, qui s'est présentée pour être sénatrice dans le Connecticut pour le Parti républicain.
Ça sent pas bon.
Et en fait, et justement, à peu près au même moment, c'est là que le catch américain a viré dans la PG area, era plutôt, donc c'est-à-dire le côté plus mignon, plus enfant, alors qu'avant, voilà.
Ah, PG comme les interdictions, là. PG.
Parental guidance, ouais. Et donc ça, c'était vers 2002, alors que juste avant, il y avait Latitude Era, une attitude qui était de 97 à 2002, où là, le public visé, c'était plus les ados, voire les adultes, donc c'était plus violent, plus trash, et il y avait un peu de sexe
aussi.
Alors
tu veux dire que toute cette, époque-là, enfin toute cette frange-là n'existe plus, ils n'ont pas coupé en deux des spectacles pour les adultes et des spectacles pour les enfants.
Ah
ils
non,
ont tout passé en version
enfant, quoi. Voilà, oui, plus ou moins.
D'accord.
Donc beaucoup pensent que ça vient là, c'est un peu ça le problème. Est-ce que je vous parle vite fait du truc qui s'est passé après le 11 septembre ou pas?
Alors rapidement, ouais. Si tu...
En fait, c'était le 13 septembre, donc il y avait donc 2 jours après les attentats. En gros, ça a été le premier show en public, et là, donc c'était la totale, l'hymne national, tout le monde qui gueule USA, USA, USA. Le rock qui débarque, qui nous fait le serment d'allégeance au drapeau. Enfin voilà, c'était assez exceptionnel à voir. Et donc, un des derniers termes aussi, le dernier terme dont je vais parler, c'est la storyline. Donc là, en fait, c'est l'histoire qui va durer un match ou plusieurs années qui peut concerner un ou plusieurs catcheurs. Donc, une des plus mauvaises, donc, c'était celle de Muhammad Hassan. Sachant que en backstage, il montrait des trucs où t'avais des mecs cagoulés qui jouaient les terroristes.
Ah putain, mauvais goût.
Donc, c'était vraiment très mal tombé. Un des trucs que tu me parles souvent, Pépé, c'est la Nexus.
La Nexus, ouais.
Voilà. Donc qui a duré à peu près un an.
C'était quoi le Nexus alors?
C'était une espèce de groupe grenadier, on va dire, c'est pas ça?
Voilà, c'est ça. En fait, ils venaient de la NXT, donc qui était la division en gros, pas inférieure, mais on va dire quoi, pas les amateurs, mais bon, c'est ceux qui allaient devenir les futurs stars.
Mais ça reste quand même, ça fait partie de la même fédé quand même. Ouais.
Oui, ça allait ensemble, ouais, parce que justement, ils étaient venus dans les shows un peu plus après. Donc, en gros, c'est là, ils avaient fait plein d'histoires. Donc, dès le début, ils en virent un parce qu'il avait craché sur John Cena. Sachant que c'est lui qui s'est fait virer dès le début, c'est Daniel Bryan, qui est l'actuel champion par équipe avec Kane. Donc, il a bien fait
de choper. Non, mais en fait, le fait qu'il ait craché sur l'autre, c'était scénarisé à l'avance ou pas?
On sait pas trop, parce que s'il s'est fait virer pour ça, on n'est pas vraiment sûr. Donc,
comme des zones d'ombre.
C'est mitigé.
Les types, ils rentrent tellement dans leur rôle qu'ils...
Parce que c'était en direct à la télé, donc vu que c'était pareil, Cena, c'était The Babyface et tout, donc ça a été très mal vu.
D'accord.
Donc en fait, la Nexus, en gros, c'était, ça s'est passé, donc ils ont viré un gars, ils attaquent le General Manager, on a une rivalité avec Cena... On fait rentrer Sinal dans le groupe, on se tape entre nous, il y a des blessures, faut prendre quelqu'un d'autre. Finalement, le gars qui était à la tête se fait virer, il crée son clan, machin. Donc en fait, c'est absolument tout est possible dans une storyline. C'est, tant que ça marche, en gros, on exploite le truc à fond. Et une des plus longues qui dure depuis 97, c'est la DX. Si tu vois Pépé à peu près qui c'est.
Je vois ce que c'est, mais je connais pas la
storyline. C'est avec Triple H et Shawn Michaels qui sont vraiment deux légendes.
Oui.
Où il y avait aussi Billy Gunn, X-Pac et Road Dogg. Donc en gros, ça a toujours été les 5 mêmes depuis le début. Il y a eu une pause en 2000, ils ont repris en 2006. Donc comme quoi, une bonne storyline, ça peut s'arrêter quelques années, ça peut reprendre très bien derrière. Et quand ils sont revenus, ça a marché super bien. Ils ont même fait équipe avec Mike Tyson, qui fait partie justement des guests qui venaient pas régulièrement, qui est venu pas mal de fois, qui a bien participé. Et dans les participants guests sur le ring ou autour, il y a eu donc Shaquille O'Neal, il y a eu William Shatner, David Hasselhoff, il y a eu les Muppets une fois aussi.
Les Muppets?
Shaquille O'Neal.
Voilà, Shaquille O'Neal qui a fait un match contre le Big Show et qui était plutôt pas mal comme match. Ouais.
Comme dans Chaque Fou.
Oh putain. La référence.
Et il y a même eu Buzz Aldrin une fois, Ozzy Osbourne, Snoop Dogg, Seth Green. Donc c'est. Et il y avait aussi eu Bob Parker, qui est en gros le Michel Drucker américain, qui présente la roue de la fortune ou je sais pas quoi. Donc ils ont vraiment ramené tout le monde, quoi. C'est y a pas de limite au guest.
Shatner, c'est énorme déjà.
Voilà. Je peux vous parler vite fait des blessures aussi?
Rapidement, alors, très rapidement.
Enfin, c'est surtout un match.
C'est toujours toi qui explose le compteur.
Excusez-moi, je sais pas, ça fait quand. Pourtant, j'ai fait light. Hein.
Donc, non, mais vas-y, rapidement, on terminera sur ça.
Je mettrai le lien sur le billet. En fait, c'est un match, donc, Hell in a Cell. Donc, vous avez une cage de à peu près 6 mètres de cube qui est posée autour du ring. Merci, voilà. Donc, c'était Mankind contre l'Undertaker. Donc, le match commence avec Mankind. Donc qui est pour moi le champion hardcore qui avait déjà perdu une oreille dans un match avant.
D'accord.
Et ce gars, donc en fait il avait la tête coincée entre deux cordes, donc il y avait son oreille qui s'était un peu décollée et son adversaire lui a tapé dessus.
Sûr
donc
que c'était,
il y a l'oreille qui s'est
barrée. Prévu.
Ouais c'est ça, c'était prévu dans le scénario.
Mais je suis pas sûr. Et en fait, quelques mois plus tard, on lui a proposé soit tu te fais rattacher l'oreille, soit tu peux combattre pour gagner le titre. Et le gars, il a préféré gagner le titre que se faire au coup de l'oreille. Et ce qui était assez énorme avec ce gars, c'est qu'il a trouvé ça bizarre. Il était déçu que le fait qu'il perde son oreille n'ait pas été exploité dans sa storyline. Dans son gimmick. Donc voilà. Donc pour revenir au match, donc ça commence sur le. Donc ils sont sur la cage, donc ils sont à 6 mètres de hauteur. Ils commencent à se taper dessus avec une chaise et tout. Et là, t'as, au bout de même pas 2 minutes de match, il y a l'Undertaker qui balance Mankind du haut de la cage, qui se vautre lamentablement sur une table.
À quelle hauteur, donc ?
6 mètres.
D'accord.
Donc, il tombe bien, parce qu'en plus, Mankind, il est assez imposant, donc il se ramasse bien. Là, t'as le commentateur, Jim Ross, qui gueule « They kill him ». Donc là, ce qui se passe, c'est que donc t'as les officiels, les médecins et d'autres catcheurs qui débarquent, notamment Terry Funk, qui brise le kayfabe, justement, parce qu'il est rival de Mankind. Donc il va le voir, il lui demande ça va et tout et tout. Donc le gars, il se fait embarquer en civière. Donc parce qu'il va vraiment mal, il s'est quasiment explosé l'épaule. Il se dit, non, j'y retourne. Donc le gars, il y retourne, il court, il grimpe à la cage tranquillement. Il recommence à se taper dessus en haut de la cage et l'Undertaker lui porte un chokeslam. En gros, le chokeslam, c'est je te chope par la gorge, je te décolle et je t'explose par terre. Sauf que, est-ce que c'était prévu ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il passe à travers la cage.
Ah.
Donc il se vaut, donc vous prenez 6 mètres moins la hauteur du ring, en gros 1 mètre, et donc il se vaut de 5 mètres sur le ring. Donc là, il se pète une dent et plusieurs côtes. Donc à un moment, il commence à rouler dans un coin, parce que l'Undertaker, il expliquait plus tard, Mankind, dans sa biographie, que s'il avait pas catché contre ce gars, il aurait pu mourir. L'Undertaker, c'est pas un main eventer, il est pas là depuis 20 ans pour rien, parce qu'il a une bonne technique et il arrive à gérer ses coups. Et donc là, une des spécialités de Mankind, c'est les punaises. Donc je vais vite. Donc c'est pas juste la petite boîte de punaises de cinquantaine, lui c'est quelques milliers qui balancent. Donc ce qui se passe c'est que l'Undertaker le chope, lui écrase le dos contre les punaises. Le gars qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je fais? Je bouge pas. Non, il fait un roulé-boulette dans les punaises, histoire de bien en avoir partout. Il se relève, l'Undertaker le refoule une deuxième fois dessus. Donc cette fois-là, il roule pas parce qu'il a peut-être un peu mal. Et donc il y a le commentateur qui gueule enough, it's enough, ça suffit quoi, arrêtez. Parce qu'il se demande, mais ils font vraiment exprès ou pas, quoi. Non, après qu'il fasse passer à travers le toit. Parce que donc là, tu te dis, il a une façon de gueuler, tu te dis, je pense qu'il flippe un peu. Donc là, il fait le tombé, match fini, 1, 2, 3, voilà. Donc ce match a été élu meilleur match de l'année 98.
D'accord.
Et la dernière anecdote par rapport à ce match, donc Mankind, il se fait embarquer en civière et tout, et il demande, est-ce que j'ai utilisé mes punaises?
D'accord.
Sachant qu'il avait encore plein de punaises plantées dans le bras.
C'est moche.
Sachant que, par ailleurs, dans toutes les blessures, aussi un des trucs que Edge a dû prendre sa retraite à cause de ça, parce qu'on lui a dit soit t'arrêtes, soit tu finis en fauteuil roulant. Ce qui continuait quand même à catcher avec une plaque et des vis en métal dans le cou. Donc, ok, c'est scripté, ok, c'est un spectacle, mais les gars, ils se font très mal et ils se blessent régulièrement.
Oui, c'est pas du chiquier quand même.
Non.
Juste dernière chose.
Oui.
Est-ce que tu savais que Passepartout s'était reconverti dans le catch prendre un?
J'avais entendu parler de ça.
Eh ben, je te le confirme.
D'accord. Voilà. Peut-être un match avec Hornswoggle un jour. Je vous parle pas des plus grands, des plus gros.
Oh, non, je pense que si t'arrives à le faire en une minute, ce sera.
Ouais, bah en fait, les plus grands, donc l'anciennement, c'était Giant Gonzalez qui faisait 2m24 pour 195 kg.
Oh la vache.
Qui a fait partie d'ailleurs de l'équipe nationale argentine de basket. Actuellement, c'est Great Khalil, le plus grand, qui fait 2m21 pour 157 kg. Il était policier en Inde et vous avez pu le voir dernièrement dans le Marsupilami.
D'accord.
Oui.
Donc la grosse baraque qui fait peur à Jamel, c'est lui. Dans les plus costauds, il y a Yokozuna, 1m93, ouais. 267 kg.
Il y avait aussi l'haïtien, là.
Voilà, c'était un Samoan qui avait un physique de sumo, mais qui ne l'a jamais été. Après, il y avait Big Daddy V qui faisait 225 kg. Actuellement, les plus balais, il y a le Big Show, 2m13, 220 kg, et Mark Henry, 1m93, 190 kg.
La vache.
Donc,
oui, oui.
Ok, c'est scénarisé, c'est scripté, mais quand vous avez un mec de 220 kg qui vous arrive sur le coin de la gueule, vaut quand même mieux être préparé. Voilà.
Eh ben, c'est riche en émotions, le catch. Bah merci, hein.
Mais de rien.
Exploser le compteur.
Merde,
hein,
j'ai fait combien de temps?
Je sais pas, t'as dû faire 40 minutes, je crois.
Ah bon, ça va.
Ça va, ça va.
J'ai fait pire.
Oui, j'ai fait un peu moins.
On t'avait laissé de
la place. On va glisser vers la conclusion. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, chers invités?
Eh bien, moi, on peut me retrouver sur gribrouillon.fr. Magnifique site où des fois je fais des gribouillages très moches.
Mais non.
Et sur Twitter, @randallflag avec un underscore à la fin. Sinon, underscore. C'est pas moi, c'est un péruvien. Ou je sais pas quoi. Et sinon, sur lebidule.org, où je fais parfois des articles.
Très bien. Et petit ours ?
Oui, bah, vous pouvez aussi me retrouver sur lebidule.org.
Excellent. D'accord. Site.
Et oui, où je fais quelques articles également. Ça m'arrive. D'ailleurs, je dois en faire deux.
Mon bientôt. Dernier était sur Tomb Raider.
Ou sur... moi, mon dernier, c'était sur quoi, je ne sais plus.
C'était il y a pas
ça devait être passionnant.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est donc sur Twitter, Titours, T-I-T-0-U-R-S.
Pour toutes les questions pour le catch, voyez ouais, avec Titours.
Voilà, pas de problème.
Sinon, Zololi propose de faire gagner un jeu sur Steam, donc c'est Sword and Sorcery. Donc, il vous suffit de laisser un commentaire dans les notes de l'émission. Donc, Loli, que je rappelle que vous pouvez retrouver dans l'émission,
ouais.
Indie Loli. Très sympa. Ouais, donc voilà. Dans les commentaires, un petit commentaire. Et...
très excellent jeu, Sword and Sorcery.
Ah, je le garderai bien pour moi, mais je vais quand même le...
je veux le gagner.
On va se quitter avec une musique de Weird Al Yankovic qui s'appelle Spam. Et ouais. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, bye bye.
Ciao.
À bientôt. Ciao. Là, il y a une petite idée. Alors, tout commence en 1985.
Tom Tom.
Attends.
Eh ben, dis.
Vas-y, refais-la.
Ouais, putain, je reconnais pas l'acte, le mec.
Hein. Non, mais j'étais en train d'écrire la fin de l'épisode.
Mais non. Alors.
Vas-y.
Donc, tout commence en 1985.
Tu vas faire un bêtisier à la fin, c'est ça?
Ouais. Allez, vas-y.
Donc.
Non, mais allô.
Alors, tout commence en 1985. Non. Et c'est en voyant ce jeu de Pantomino que Alexei a l'idée de faire un jeu de pièces. Bon, rapidement, ici.